Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
C'est votre grand journal avec du reportage, de l'analyse, le débat d'idées. Nous serons sur place dans quelques instants avec les sinistrés dans l'arrière-pays niçois face à la violence inouïe de ces inondations. 18h15, c'est Jean Jouzel, membre du GIEC, qui nous alerte sur ces épisodes intenses qui sont hélas l'illustration du dérèglement climatique. 18h30, les grandes voix d'Europe 1. Nous reviendrons sur cette projection IFOP dans le journal du dimanche aujourd'hui. Le match Macron-Le Pen qui s'enracine pour 2022 et Xavier Bertrand en troisième position. Et la dette dans tout ça, adossée au Covid. La dette qui explose, quand paierons-nous les pots cassés? On y reviendra avec nos débatteurs. 19h30, je reçois ce soir sur Europe 1 la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, après ses annonces pour le bien-être animal du cirque à l'élevage de Vison. Les animaux, encore à la fête aujourd'hui, dans une chanson dans la tête.
Vous n'avez pas vu Mirza? La 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 la.
C'est Fabien Lecoeuvre qui, comme chaque week-end, nous raconte la petite histoire de ces grandes chansons en cette journée mondiale des animaux. 19h15, les Restos du Cœur ont mené tout le week-end une levée de fonds pour financer des camions frigorifiques et aider à la distribution de nourriture partout en France. Une web radio pleine de camaraderie, près de 200 000 euros récoltés. C'est Romain Colucci qui sera avec nous sur Europe 1. Voici d'abord, car il est 18h, toutes les infos, c'est le journal de Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue donc jusqu'à 20h, il est 18h sur Europe.
C'est complètement détruit, ça me rappelle la guerre. Une quantité d'eau, mais démentielle.
Un spectacle de désolation dans la vallée de la Roya, alors que 11 personnes sont portées disparues dans l'arrière-pays niçois. Les opérations se poursuivent. 1000 pompiers mobilisés, l'armée appelée en renfort et 12 hélicoptères qui font des rotations pour évacuer les sinistrés. Des évacuations ralenties par le mauvais temps.
Un nouveau bulletin de santé pour Donald Trump, il y a quelques minutes. Il va mieux, dit son médecin personnel. Il a eu besoin 2 fois d'oxygène avec un peu de dessoufflement, mais il n'en aurait plus besoin ce soir et pourrait retourner à la Maison Blanche dès demain.
Nous irons à Villefontaine où une marche blanche en hommage à Victorine a rassemblé une foule impressionnante.
Et puis la Nouvelle-Calédonie a dit non à l'indépendance, non mais à une courte majorité, 53% des voix. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et donc Fabienne, au moins 11 personnes sont portées disparues ce soir dans l'arrière-pays niçois, 2 jours après le déluge qui s'est abattu sur la région.
Et parmi les secteurs les plus touchés, la vallée de la Vésubie avec de nombreuses évacuations depuis hier par hélicoptère, on y reviendra dans un instant, et la vallée de la Roya où le corps d'un berger français vient d'être retrouvé dans la rivière. La vallée de la Roya près de la frontière italienne, toujours accessible en voiture, mais au prix d'un trajet de plusieurs heures car de nombreuses routes sont coupées. Dans cette vallée, les habitants manque de tout, eau potable, électricité. Nathalie Chevance, vous venez d'accéder à Breil-sur-Roya, où les habitants se sentent aussi abandonnés et où règne la désolation.
Oui, avec ces maisons le long de la Roya complètement transpercées par les eaux du fleuve, il y a là un enchevêtrement de végétation, de véhicules enfoncés dans la boue, de tôles. Charles, 94 ans, a eu la vie sauve parce qu'il est parti juste avant le déluge.
C'est complètement détruit, ça me rappelle la guerre. Une quantité d'eau, mais démentielle. Nous étions seuls avec mon épouse. Nous sommes allés coucher chez mon cousin.
Ça vous a sauvé la vie ?
Eh bien, bien entendu.
Et ce soir, plusieurs hameaux autour de Breil restent totalement inaccessibles. Route impraticable, la population manque de tout. Le maire Sébastien Ollarand lance un appel au secours.
La situation est catastrophique. Nous avons des dégâts humains que nous ne sommes pas encore en mesure de chiffrer, avec des nombreux disparus, sans doute plus d'une dizaine, rien que sur la commune de Breil-sur-Roya. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin de carburant, nous avons besoin que l'on rétablisse les réseaux téléphoniques. Un gros sentiment d'isolement.
Inquiétude des habitants dans la vallée sans nouvelles de leurs proches à quelques kilomètres plus loin. La pluie qui est tombée une bonne partie de l'après-midi a stoppé les rotations par hélicoptère. Certains habitants comme Sébastien, très choqués, préfèrent quitter les lieux.
On a tous tout perdu. Notre village, notre maison, on a tout perdu. Après nous, on a certains collègues qui sont partis avec la maison dans la Roya. Donc on n'a toujours pas de nouvelles d'eux. Voilà. Ben, c'était apocalyptique.
Alors 20 km plus haut à Sospel, une chaîne de solidarité est en train de se mettre en place. Les sapeurs-pompiers récupèrent de l'eau, des vêtements, des denrées non périssables et les premiers camions commencent à arriver.
Nathalie Chevance à Breil-sur-Roya.
Alors on va faire le point sur les opérations en cours alors que près de 1000 pompiers sont engagés pour les recherches, pour l'aide aux sinistrés. L'armée, vous le savez, a aussi été appelée en renfort.
Et les évacuations par hélicoptère ont repris depuis ce matin, mais elles ont été ralenties cet après-midi à cause des mauvaises conditions météo, Marion Gauthier.
Oui, un pont aérien en pointillé cet après-midi. Décollage impossible dans les nuages. Les 12 hélicoptères à disposition n'ont pu faire leur va-et-vient dans le département que lorsque le ciel s'éclaircissait ponctuellement. Les 900 sapeurs-pompiers engagés au sol s'activent donc d'autant plus, essentiellement dans les vallées de la Roya et celle de la Vésubie. En ce moment même, 94 habitants de Saint-Martin-de-Vésubie sont emmenés vers Nice. Ils ont été accompagnés à pied sur une portion de route encore intacte avant d'être embarqués dans des minibus. Et ce n'est que le début d'un travail de longue haleine, lance Fabrice Gentili. Il est commandant des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes.
On ne peut pas dire qu'on n'aura pas une liste qui va s'allonger de disparus ou de maisons qui vont s'effondrer. Je veux dire, on n'est pas encore dans un recensement exhaustif de tous les dégâts, ce n'est pas possible. C'est trop tôt pour l'instant pour pouvoir maîtriser tout parce que le chantier est très vaste et comme on n'a pas d'infrastructure routière pour pouvoir, on va dire, déployer toutes nos forces de façon rapide sur tout le territoire qui est sinistré, eh ben c'est quand même assez compliqué, quoi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a fait des investigations totalement exhaustives sur le terrain.
Il reste un gros travail de reconnaissance puisque des hameaux sont encore totalement isolés. Un effort également de déblaiement, de sécurisation des terrains, des habitations encore debout, mise en place de groupes électrogènes, mais aussi acheminement de vivres, d'eau et de matériel de survie pour les personnes qui n'ont pas été évacuées. Les missions sont nombreuses, à mener de front. 500 gendarmes et une centaine de militaires sont venus prêter main forte. Déjà 420 interventions ont été menées à bien.
Et Marion, vous parliez à l'instant de ces évacuations ralenti avec les sinistrés qui sont accueillis à l'aéroport de Nice. Là, ils sont pris en charge, notamment par une cellule psychologique, comme l'a expliqué Hélène Delmotte de la métropole Nice-Côte d'Azur à Johanna Chabas.
Les personnes, quand elles arrivent, elles sont en état de sidération compte tenu de ce qu'elles ont vécu, donc elles sont pas bien, d'où la nécessité absolue d'avoir des psychologues qui leur permettent d'être écoutées, de dire ce qu'elles ont vécu et qu'on soit à leur écoute pour répondre à leurs premiers besoins. Ils sont accueillis, enregistrés et on voit avec eux s'ils ont des solutions d'hébergement d'urgence. Si ça n'est pas le cas, si dans le réseau amical, familial, il n'y a pas de solution, on les oriente soit vers un hôtel, soit vers un appart-hôtel où ils sont pris en charge par la métropole.
Un témoignage recueilli par Johanna Chabas.
Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces opérations en cours. Et on y reviendra dans 10 minutes avec mon invité sur Europe 1, le climatologue Jean Jouzel, membre du GIEC, qui revient sur ces phénomènes météo intenses et intensément violent lié pour lui au dérèglement climatique, Fabienne.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Le journal revient dans un instant avec cette marche blanche en mémoire de Victorine. Victorine, 18 ans, retrouvée morte lundi, en tête de cortège, sa famille évidemment, suivie par une foule très impressionnante. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h08 sur Europe 1, si vous nous rejoignez, vous êtes au cœur du journal présenté par Fabienne Lemoyle. Et dans l'actualité, Fabienne, l'hommage cet après-midi à Villefontaine pour Victorine, 18 ans.
Une marche blanche avec en tête de cortège sa famille, suivie par une foule très impressionnante, Jean-Luc Boujon.
Oui, effectivement, ce sont 4000 personnes qui ont marché durant un peu moins de 2 km sur le parcours qu'aurait dû emprunter Victorine pour rentrer chez elle il y a de cela une semaine, depuis le stade de Villefontaine jusqu'à la maison familiale. Une marche silencieuse avec en tête de cortège ses parents, très dignes et tenant une banderole « Victorine repose en paix », entourée de ses sœurs et de son frère Rémi qui a pris la parole.
Victorine, je sais que de là-haut tu nous entends, alors écoute une dernière fois ton loulou. Veille sur toutes ces femmes qui rentrent seules. Tu nous laisses ton visage d'ange et seras toujours belle aux yeux de tous. Je t'aime, ma sœur.
Voilà la famille qui, au début de la marche, a laissé s'envoler une colombe, puis ce sont des ballons blancs qui ont rempli le ciel de Villefontaine. Janine, ancienne voisine, a tenu à être présente.
C'est dramatique. Surtout une petite jeune fille comme ça, de 18 ans, si belle. C'est inadmissible. On ne comprend pas comment il peut arriver des choses pareilles. Qu'il y ait des gens qui lui aient fait du mal. C'est incompréhensible.
Voilà des participants à la marche qui ne cachent plus leur inquiétude de savoir que l'agresseur de la jeune femme est toujours dans la nature une semaine après. L'enquête, elle, se poursuit avec des moyens de gendarmerie très importants.
Jean-Luc Boujon à Villefontaine pour Europe 1.
La Nouvelle-Calédonie a voté, deuxième référendum en 2 ans. Les habitants ont dit de nouveau non à l'indépendance à une petite majorité.
53% pour le non. Du coup, c'est une victoire en demi-teinte pour les loyalistes, Mathieu Bock.
Oui, car ils ont perdu 3 points par rapport au premier référendum de 2018, soit la moitié de leur avance. Cela fait dire au député loyaliste Philippe Gomez que cette victoire a un goût amer.
On a quand même tous les ingrédients pour être anxieux. Quand vous gagnez 57-43, vous avez de la marge. Quand vous gagnez 53-47, vous avez moins de marge. Et quand vous êtes à 3 points d'une possibilité de sortir de la France, vous ne voyez pas les choses de la même façon. On a une Calédonie française aujourd'hui qui est fragilisée. Les tenants du oui à l'indépendance ont réussi à conquérir de nouvelles terres et renforcer le clan des Calédoniens qui souhaitent accéder à la pleine souveraineté.
À l'inverse, ce sont les perdants qui ont le sourire. Les indépendantistes ont rattrapé la moitié de leur retard. Pierre Chanel Tutugoro, le secrétaire général de l'Union calédonienne, espérait même faire mieux que ça.
On est content du résultat, mais n'empêche qu'il ne faut pas l'analyser, ce résultat, comme le résultat d'un simple rendez-vous électoral, comme les municipales, comme les régionales. On avait la plus grande réserve de voix au niveau des abstentionnistes. Et on s'est donné tous les moyens pour aller chercher ces abstentionnistes. On espérait faire plus parce qu'on pensait que des lignes allaient bouger dans les autres communautés pour nous permettre de passer le cap du 50% ou s'approcher au mieux.
Les indépendantistes vont devoir maintenant attendre 6 mois avant de pouvoir demander la tenue d'un troisième et dernier référendum sur l'indépendance qui se tiendrait alors d'ici 2022.
Emmanuel Macron a salué ce non à l'indépendance en parlant d'une marque de confiance dans la République qu'il accueille avec un profond sentiment de reconnaissance. Nouveau bulletin de santé de Donald Trump il y a quelques minutes alors qu'il y a eu des informations contradictoires ces dernières 24 heures. Il va mieux, nous le suivons de près, dit son médecin personnel. Il a eu besoin 2 fois d'oxygène avec un peu d'essoufflement, mais il n'en a plus besoin, il est revenu à la normale. Il pourrait même retourner à la Maison-Blanche dès demain, ajouter un autre membre de l'équipe médicale.
Et puis nous avons appris ce soir la mort du créateur de mode japonais Kenzo. Il avait 81 ans.
Kenzo Takada, emporté par le coronavirus, à qui la journaliste spécialiste de mode Laurence Benahin rend hommage ce soir sur Europe 1.
L'image d'un éclat de rire, de vie, de couleur. En fait, c'est quelqu'un qui est arrivé à la fin des années 60 à Paris en créant sa marque d'accessoires et de parfums Kenzo. Il a imposé une vision. Pour moi, ce qui est important, c'est de voir comment il a sorti le kimono de ses références liées à un seul pays pour en faire un vêtement universel qu'il a décliné en veste, en manteau, et ce qui fait qu'il a été comme une sorte d'enchanteur de la mode. C'était le plus parisien des Japonais, le plus japonais des Parisiens.
Voilà, le plus japonais des Parisiens, dit Laurence Benahim ce soir à Jean-Jacques Herry.
Merci Fabienne Lemoyle. On vous retrouve samedi prochain pour le journal de la mi-journée, pour Tout est brun, l'émission des reporters d'Europe 1. Bonne semaine et au week-end prochain.
Avec plaisir.
Valérie Darmon, bonsoir Valérie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
On a vécu un week-end dramatique évidemment dans les Alpes-Maritimes. J'aurais qu'on fasse un point de situation, notamment sur ces 3 départements en alerte orange, pluie, inondation toujours.
Et oui, la vigilance orange, pluie, inondation qui concerne les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques depuis hier jusqu'à demain matin, 6h au moins. Et le département de la Manche qui est placé en alerte orange pour pluie, inondation pour ce soir et pour demain également. Alors pour le département de la Manche, les pluies vont se renforcer ce soir et surtout la nuit prochaine. Elles vont concerner surtout le sud du département. À noter que ces cumuls n'auront rien à voir avec ceux de ces derniers jours. Mmh. Des Hauts-de-France et de la Normandie au centre, pour le reste de la France tout de même, à la Bourgogne, à la Franche-Comté, au Grand Est, pluie ou averse vont défiler toute la journée de demain. De la Bretagne au Poitou-Charentes, après une matinée très pluvieuse, on va apprécier le retour d'assez belles éclaircies tout de même. C'est là que vous serez privilégié à partir de demain et seulement pour demain d'ailleurs, parce qu'ensuite ça va se corser, sauf pour le sud-est. De plus faibles ondées traversent les plaines de Rhône-Alpes, elles se bloquent contre les Alpes du Nord et elles vont donner de la neige au-dessus de 1500 mètres. Et puis dans le sud-est, enfin, les averses affectent encore l'ouest de la Corse en début de journée, mais sur le reste du pourtour méditerranéen, vous retrouvez des conditions très améliorées avec le retour de très belles éclaircies. Un mot des températures, les minimales entre 7 et 11 degrés en général, les maximales 17 à 21 sur le sud-est, 16 à 19 sur les plaines du sud-ouest, 12 à 16 sur le reste du pays. Des températures qui sont assez faiblardes pour la saison, un peu à l'image de ce week-end.
Merci, à tout à l'heure, 18h30 Valérie. L'actu des sports, c'est avec Julien Froment. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
On prend tout de suite la direction de la Porte d'Auteuil.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Roland-Garros avec la révélation française, Hugo Gaston en plein match à 18h15, Julien.
Exactement, on retrouve notre envoyé spécial Corinne Boulou sur le court Philippe Châtrier. Bonsoir Corinne. Après le Suisse Stan Wawrinka, c'est donc l'Autrichien Dominique Thiem, troisième mondial qui se dresse face à Gaston. Et bien pour le moment, le 239e mondial est en difficulté.
Ah. Corinne Boulou.
Pardon, Hugo Gaston, effectivement, oui. Court après le score, il est mené 2-7 à 0 par Dominique Thiem. 6-4, 6-4 après 1h30 de jeu. Alors le jeune Français n'a pas à rougir de sa prestation face à l'Autrichien pour son premier huitième de finale en Grand Chelem. Lui qui est 239e mondial, vous l'avez dit. Seulement voilà, il a en face de lui l'un des meilleurs joueurs au monde sur terre battue après Rafael Nadal. Oui. Le numéro 3 mondial impose sa puissance aux Français qui répond par des coups de patte de gaucher dont il a le secret. Hugo Gaston n'a perdu que 2 deux fois son service, mais cela suffit à Dominic Thiem pour être en ballottage favorable vers un cinquième quart de finale consécutif ici. Dans le troisième set, Hugo Gaston vient de remporter son service. Il mène 2-1 face à l'Autrichien.
Merci Corinne. À noter que dans le tableau dames, c'est fini pour Caroline Garcia. Elle a subi la dure loi de l'Ukrainienne Elina Svitolina. Elle s'incline en 2-7, 6-1, 6-3 face à la tête de série numéro 3. La dernière tricolore en lice, Fiona Ferro, eh bien, jouera demain pour une place en quart de finale contre l'Américaine Sofia Kenin.
Le foot dans l'actualité également, 6e journée de Ligue 1 et c'est un choc des extrêmes ce soir.
Ouais, direction le Roazhon Park, Rennes 2e reçoit Reims 19e. Stéphane Beignet, ça se passe plutôt bien pour cette équipe rennaise.
Effectivement, pour l'instant le stade rennais mène 2-1, on est à l'heure de jeu et pourtant ce sont les Rémois qui avaient ouvert le score à la 11e minute sur corner avec leur capitaine Abdelhamid qui place une tête hors de portée de Salin, le portier rennais. Voilà comment Reims ouvre le score à la 11e minute. Rennes va revenir très rapidement dans la partie, 1-2, Rafinha Guirassy, et Rafinha qui va tromper de près le portier rémois. C'était à la 24e et puis à la 36e minute, là encore une histoire de coup de pied arrêté, le corner de Rafinha, la tête du capitaine breton Da Silva qui va tromper Rajkovic, et voilà comment la formation rennaise pour l'instant mène 2-1 sur sa pelouse du Roazhon Park et reprend eh bien pour l'instant la place de leader de ce championnat de Ligue 1.
Exactement, merci Stéphane, puisque Lille a gagné cet après-midi 2-0 sur la pelouse de Strasbourg. À noter dans les autres matchs aussi la victoire de Bordeaux face à Dijon 3-0, de Metz 3-1 contre Lorient, et la victoire de Metz contre Lorient 3-1, et de Brest contre Monaco 1-0.
Et puis ce soir, Julien, 21h, c'est le choc des Olympiques, Lyon face à Marseille.
Oui, une affiche de mal classé, l'OL 14e contre l'OM 13e. Les deux équipes ont raté leur entame de saison et se doivent de réagir, surtout du côté de Lyon, qui doit absolument accrocher l'Europe à la fin de l'année. Une rencontre dans un contexte particulier, le Groupama Stadium restreint à 1000 spectateurs, sonnera creux, ce qui inquiète un peu le défenseur lyonnais Léo Dubois.
C'est pas la même chose, parce que voilà, il n'y a pas tout cet engouement qui est autour de ce match, forcément. Après, pour la motivation, je pense qu'elle n'est pas difficile à aller chercher. Nous, on a une obligation de résultat. On est tous très motivés, on a tous bossé cette semaine pour pouvoir gagner ce match. Après, on est conscient que ça ne sera pas simple. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir nos supporters nous aurait aussi, je pense, aidé. Malheureusement, on sait qu'ils ne seront pas avec nous, en tout cas dans le stade.
Léo Dubois au micro de Maxime Choche, OL-OM, coup d'envoi à 21h. Match à suivre, bien sûr, en intégralité sur Europe 1.
C'était Journal des Sports. On vous retrouve à 19h10, Julien Froment.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Les crues dans le sud-est à la une. Nous avons besoin de comprendre comment un tel drame humain et matériel s'est abattu dans l'arrière-pays niçois. La France rattrapée par ces phénomènes climatiques exceptionnels. Le climatologue Jean Jouzel est notre invité juste après la pause.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h21, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Au cœur de l'actualité, ces crues exceptionnelles dans le sud-est qui plongent des milliers de Français dans la détresse et l'attente des nouvelles d'au moins 11 disparus. Bonsoir Jean Jouzel.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Vous êtes climatologue, membre du GIEC. Jean Jouzel, vous avez toutes ces images comme nos auditeurs en tête depuis plusieurs heures. Il y a quelques semaines, c'est le Gard qui était soumis à un épisode intense. On a connu cet été, dans le sud, dans le nord, des feux de forêt. On a connu une rentrée jusqu'à la fin du mois de septembre quasiment, avec des records de température de l'ordre de 30 degrés. Tous ces événements que je viens de citer, ce sont pour vous des signes importants du dérèglement climatique?
Oui, tout d'abord une pensée pour tous ces gens qui sont en détresse, que vous venez de citer, dont vous venez de parler, aussi bien du côté français que du côté italien. Bien sûr, ce sont quand même des précipitations vraiment exceptionnelles. La conjonction de cette tempête grande échelle Alex et d'un épisode méditerranéen, et ces épisodes méditerranéens, eh bien, effectivement, deviennent de plus en plus fréquents. Ils ont augmenté de peu près de 20% et risquent de devenir encore et peut-être plus intenses. Et on a là, effectivement, en réponse au réchauffement climatique, quand on parle des incendies, eh bien, au moins à l'échelle planétaire, effectivement, les périodes de sécheresse couplées à des périodes de canicule favorisent l'extension de ces feux et de ces grands feux. Donc oui, nous avons à travers ce qui nous entoure des manifestations du réchauffement climatique. Nous sommes vraiment dans un contexte tel que nous l'imaginions il y a une trentaine d'années. Et depuis une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000, les modélisateurs disent vraiment, enfin nous disent clairement que ces événements extrêmes eh bien, risquent de devenir soit plus intenses, soit plus fréquents. Ça dépend de l'événement extrême qu'on regarde.
Oui.
Mais on peut bien parler de, dans ce cas-là, de dérèglement climatique.
Jean Jouzel, on comprend bien le lien entre réchauffement climatique, canicule, sécheresse, incendie. Mais en quoi un climat plus chaud est-il responsable de ce type de tempête et de précocité de tempête hein, en général, on les connaît plutôt plus tard dans l'automne.
Oui, donc là il y a conjonction d'une tempête grande échelle Alex qui n'a probablement rien à voir avec le réchauffement climatique, mais les belles zones méditerranéennes qui a vraiment été à l'origine de ces, alors c'était aussi il y a quelques semaines, vous l'avez dit, dans l'Hérault et dans le Gard, et ces événements méditerranéens, disons assez précoces effectivement, c'est plutôt on est encore pratiquement disons en septembre ou début octobre, eh bien ça reste quand même la même explication qu'on a chaque année, c'est-à-dire c'est ce décalage, disons, entre les températures très chaudes, qui restent très chaudes, l'eau très chaude sur la Méditerranée, qui fournit des masses d'air extrêmement riches en eau. Et ces masses d'air, dans le cas présent, vont vraiment buter sur des reliefs, hein, les premiers reliefs du Haut-Var et puis les Alpes-Maritimes. Et donc tout cela avec une circulation océanique qui amène aussi quand même pas mal d'air froid. Donc ça crée vraiment des instabilités et des précipitations très importantes qui ont stagné pendant assez longtemps. Hein. On a bien vu au moins 24 heures sur ces régions de Saint-Martin, de Visibier et tout cela. Donc oui, disons, ces explications d'événements méditerranéens restent effectivement, je dirais, d'année en année la même. Hein. C'est vraiment ce décalage, le fait que l'océan, que la Méditerranée reste chaude plus longtemps, disons, en mesure que la saison va avancer. Et effectivement, on a toujours le risque d'autres événements méditerranéens jusqu'à octobre, voire novembre. Et donc, c'est là qu'il faut être attentif. Mais ce qu'on peut dire dans ce cas-là, c'est que les prévisionnistes de Météo France ont remarquablement prédit l'événement. Mais même cette bonne prédiction n'est pas suffisante pour éviter les catastrophes que beaucoup de gens ont, disons, auxquelles beaucoup de gens font face.
Absolument.
C'est une situation très, très difficile.
Et justement, vous parlez des projections, des prévisions. On a l'état de catastrophe naturelle qui a été déclenché. Est-ce qu'il faut travailler à une reconfiguration des projections pour prendre la mesure de ces épisodes qui vont devenir manifestement de plus en plus violents, de plus en plus intenses? Quand on parle par exemple du côté des secours, on entendait sur l'antenne d'Europe 1 le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui disait qu'il faut maintenant engager une vraie politique de sécurité civile, développer par exemple davantage de portages, plus d'hélicoptères hein, pour sauver tous ces habitants. Comment aujourd'hui remodéliser aussi nos prévisions, nos projections pour peut-être être plus prudent et pour anticiper et pour sauver des vies.
Il y a certainement un travail à faire sur le terrain en termes effectivement de moyens mis à disposition des secours. On voit bien qu'ils sont toujours assez limités dans le cas de grandes catastrophes comme celle-là. Il y a peut-être aussi une réflexion à porter sur l'habitat lui-même. J'imagine qu'il y a visiblement des zones plus fragiles où les glissements de terrain peuvent être anticipés. Et peut-être faut-il quelquefois, disons, on a vu ces maisons qui sont parties avec, disons, à la fois par des glissements de terrain provoqués par ces pluies intenses. Et peut-être faudrait-il regarder de façon plus précise l'habitat dans ces régions et quelles sont vraiment, par exemple, les habitations à risque et peut-être aussi prendre des mesures par rapport à cela. Je sais que c'est très difficile de dire cela, mais ce risque de pluies exceptionnelles comme celles qui ont été vécues aussi bien dans l'Hérault que dans le Var et les Alpes-Maritimes, risque tout simplement de devenir encore plus, disons, on parle de quelques pourcents de plus par degré, sont les projections de Météo France, donc il ne faut pas penser que, disons, ça va se calmer. Mais au contraire, donc ce risque doit être pris au sérieux et je pense qu'il y a des mesures aussi bien en termes d'écoulement des eaux, de protection des habitations, peut-être aussi d'attention portée aux endroits particulièrement à risque qui est là, mais bien sûr aussi je crois qu'il faut que les secours soient mieux munis par rapport à ces périodes où ils sont très très sollicités.
Bien sûr, vous travaillez beaucoup sur les conséquences de ce réchauffement sur l'agriculture, sur les territoires, Jean Jouzel.
Oui.
Vos interlocuteurs, ce sont des élus, ce sont des urbanistes, pour terminer.
Oui, souvent. J'ai des interlocuteurs. J'interviens souvent auprès d'élus. Ça sera le cas cette semaine à Laval. Donc, j'interviens aussi auprès d'entreprises. Par exemple, dans ce cas-ci, cette semaine, j'irai chez Veolia à Lyon. Donc, il y a beaucoup d'interventions aussi, bien sûr, dans le cadre universitaire, dans des écoles. Il y a beaucoup de gens s'intéressent et je ne suis pas le seul. Beaucoup de mes collègues le font également. Je pense que notre rôle de scientifique, c'est effectivement d'alerter, mais je veux dire de façon dont on peut pas non plus trop catastrophique. Je pense qu'il faut que...
Mais réaliste et concrète.
Bien, mais je redis souvent quand même que, disons, là où nous en sommes, c'est là où nous avions envisagé d'être il y a 30 ans. Ça veut dire que ces projections doivent être prises au sérieux.
Absolument. Jean Jouzel, on pourra lire votre dernier ouvrage coécrit avec Baptiste Denis, Climat, parlons vrai, justement, aux éditions François Bourin. Jean Jouzel, climatologue et avec le GIEC, prix Nobel de la paix. Merci beaucoup.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
On se retrouve dans 2 minutes sur Europe 1 avec le fil info et puis le débat des grandes voix. Au programme, le match Macron-Le Pen pour 2022. Ce sont les projections de l'IFOP, la lutte contre le Covid, Paris dans la tourmente et la dette dans tout ça. Elle explose et nos grandes voix réagissent. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h31 sur Europe 1, voici le fil info. Bonsoir Émilie Dez.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. 48 heures après le déluge qui s'est abattu dans l'arrière-pays niçois, les secours sont toujours à la recherche de nombreuses personnes disparues. Le corps d'un berger français a été retrouvé dans le fleuve Roya, côté français, annoncent les autorités italiennes. Un homme a également été retrouvé mort dans sa voiture à Saint-Martin-Vésubie. Arrêté un temps à cause de la pluie, le rapatriement des rescapés a finalement repris. Ce soir, certains villages restent coupés du monde, sans eau potable ni électricité. Et puis impossible de rouvrir toutes les écoles demain, les familles concernées seront prévenues. Des nouvelles de Donald Trump, toujours hospitalisé aux États-Unis après avoir été testé positif au Covid-19. Le président américain pourrait sortir dès demain de l'hôpital, selon son médecin. Dans une vidéo publiée ce matin sur Twitter, Donald Trump avait déjà assuré aller beaucoup mieux tout en précisant que les prochains jours représenteraient un vrai test. Emmanuel Macron accueille la victoire du non à l'indépendance avec un profond sentiment de reconnaissance. La Nouvelle-Calédonie devait décider de son avenir aujourd'hui et c'est donc le non qui l'emporte de peu avec 53,3% des voix. Dans l'actualité également, va-t-il y avoir un nouveau tour de vis à Paris ? Le gouvernement doit communiquer ce soir sur la situation sanitaire dans la capitale et les voyants sont au rouge. Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, de nouvelles mesures devraient être prises demain. L'hommage cet après-midi des habitants de Villefontaine à la jeune Victorine, une marche blanche était organisée en mémoire de la jeune femme 18 ans, retrouvée morte en début de semaine dans un ruisseau. Et puis la mort du créateur japonais Kenzo Tagada des suites du Covid-19. Il s'est éteint à l'âge de 81 ans à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.
À tout à l'heure, 19h pour l'info. Valérie Darmon, le ciel s'éclaircit-il un petit peu demain lundi, Valérie ?
Alors écoutez, uniquement Wendy, sur le pourtour méditerranéen, hein, depuis le golfe du Lion jusqu'à Nice, en passant par Cannes ou encore Antibes évidemment, mais pas en Corse, hein, très pluvieuse, et un peu aussi sur la façade ouest, dans l'après-midi, Charente, Pays de la Loire, Sud-Bretagne, golfe du Morbihan. Ailleurs, le ciel va rester gris et pluvieux, y compris sur la région parisienne. En attendant, prudence si vous circulez ce soir et cette nuit sur le Pays Basque, les Pyrénées-Atlantiques, la Manche, où il va beaucoup, beaucoup pleuvoir, et qui sont d'ailleurs en alerte orange forte pluie. Les minimales s'inscrivent entre 7 et 11 degrés en général. Elles ne remontent évidemment pas dans ce contexte. Les maximales atteindront 17 à 21 degrés sur le sud-est, 16 à 19 sur les plaines du sud-ouest et 12 à 16 sur le reste de la France.
Merci Valérie Darmon.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Voici l'actualité en débat jusqu'à 19h avec les grandes voix de ce dimanche 4 octobre. Laetitia Krupa, journaliste politique. Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique, président de MCBG Conseil. François Claus, grand reporter, rédacteur en chef à Europe 1. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Paris qui passe en alerte maximale dans les heures qui viennent. Précisément, les restaurateurs qui rivalisent d'idées pour ne pas baisser le rideau dans la crise et la dette dans tout ça. 6500 euros de plus par Français, chiffre le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, dans Le Parisien. Vous allez réagir sur ce sujet. On reviendra sur le match annoncé, enraciné. Nous sommes en 2020, mais pour 2022, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Projection IFOP aujourd'hui dans le JDD. Le troisième homme, c'est Xavier Bertrand. Et puis nous reviendrons évidemment sur ces inondations dévastatrices. Un drame vécu comme un nouvel avertissement du dérèglement climatique. Nous en parlions à l'instant avec Jean Jouzel, des élus s'insurgent.
Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Mais j'aime d'abord ce moment apéritif où vous nous donnez vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos coups de blues du moment. On va commencer par vous, François Claus. Coup de gueule à la une ce soir.
Oui, un coup de gueule pour la sortie du multirécidiviste Éric Zemmour sur CNews, la chaîne de Vincent Bolloré. C'était mardi dernier. Je vais citer ses propos. Alors je sais que je ne devrais pas parce que finalement, quelque part, il n'attend que ça. Mmh. Et pourtant, les mineurs isolés, ils sont assassins. Ils sont violeurs, c'est tout ce qu'il faut. Il faut les renvoyer, sortir de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme. Fin de citation. au-delà de ces quelques mots, comme à chaque fois la pathétique défense après. Mais non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que parmi les 50 000 mineurs isolés en France, il y aurait 50 000 délinquants, sauf d'abord qu'il y en a vraisemblablement entre 16 et 30 000, selon les ONG spécialisées, et qu'ensuite, oui, il a dit tous, à trois reprises sur le plateau. Cette défense est venue après que le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour incitation à la haine raciale, saisie par le CSA. Alors oui, ce coup de gueule, je n'arrive pas à m'en défaire. Bien sûr, les médias sont là pour donner le champ à toutes les opinions, à toutes, mais dans un certain cadre, un cadre que Éric Zemmour tente de briser à chaque fois, avec des actionnaires, des patrons de chaîne qui voient là un moyen de faire de l'audience, 500 000 téléspectateurs chaque soir, c'est paraît-il un très beau score pour cette chaîne, mais cela engendre dans le pays un climat, des idées au relent pour moi nauséabond. Bien sûr, je ne suis pas aveugle. Les mineurs délinquants, j'ai fait des reportages avec eux. J'ai été à Dakar, j'ai été à Casablanca. J'ai habité pendant 5 ans auprès du square Bachung dans le 18e arrondissement de Paris. Je sais que ces gosses défoncés à la colle peuvent créer énormément de dégâts. Je sais aussi qu'ils sont utilisés, manipulés par des réseaux et que la plupart du temps, ils sont des victimes. J'aurais aimé que l'émotion qu'on a tous ressentie en voyant le cadavre d'un gamin de 5 ans échoué sur une plage en Turquie parce qu'il fuyait les bombardements de Alep, que cette émotion-là soit la même en entendant les propos d'Éric Zemmour.
Oui, François Claus, et en même temps, vous avez tout dit, l'audience, cette émission, Face à l'info, d'Éric Zemmour.
L'audience augmente au fur et à mesure que le discours se radicalise. Oui. Après, je pense qu'il faut quand même garder toute notre raison. Et oui, ça capte un public, mais enfin, c'est pour l'instant un public niche, 500 000 sur... plus de 60 millions d'actifs, pas d'actifs, mais de Français. C'est niche, mais bien sûr qu'il y a une responsabilité du média qui diffuse ses propos, puisqu'il n'y a eu aucune
excuse.
Lequel,
pour une fois, s'est désolidarisé. Absolument. Il faut le signaler au niveau de la direction de l'info et bien sûr au niveau de l'ensemble de la rédaction de CNews.
Mais la vraie question, François, je pense que vous la posez en filigrane. Hein. Est-ce que CNews sera la prochaine Fox News française? Est-ce que c'est assumé ou pas? C'est ça toute la question.
Et visiblement, ça l'est.
Philippe Moreau, Chevrolet, mais on parle de Fox News et on va partir maintenant du côté des États-Unis pour votre coup de gueule du soir sur une mise en scène. C'est l'hospitalisation de Donald Trump. Dernière vidéo en date hier soir. Je me sens mieux, je dois être de retour, je dois revenir pour notre projet d'une Amérique encore plus grande, dit Donald Trump. On doit terminer le boulot. Voilà ce que dit Donald Trump il y a quelques heures.
Oui, alors un président doit-il être un homme comme les autres, Wendy? Hier soir, Donald Trump a posté sur son compte Twitter effectivement une vidéo de 4 minutes pour montrer qu'il est opérationnel. Il explique qu'il ne se bat pas pour lui-même, mais au nom de tous les malades de la planète, rien moins que ça. Il appelle un miracle
nouveau, oui.
Et il remercie Dieu, tant qu'à faire.
Oui.
La vidéo semble avoir été montée pour couper notamment des épisodes de toux. En gros, on ne veut pas le voir tousser. Certains médecins jugent que Trump manque d'oxygène quand il parle, mais il tient dans la vidéo. Une séance photo a été publiée avec la vidéo. En regardant les données exif des photos, c'est en quelque sorte leur empreinte digitale. On voit qu'elles ont été prises en une seule fois, dans un délai très court, d'une dizaine de minutes. Un simple gros plan montre que le président ne travaille pas, contrairement à ce qu'il prétend. Il écrit juste son prénom sur une feuille de papier.
Dont il se souvient, c'est déjà une bonne.
Autrement dit, tout cela relève d'une mise en scène. Hein. Alors pourquoi est-il si important pour un président d'être vu en bonne santé? Bien, dans le cas de Trump, c'est pour éviter qu'on lui demande de céder le pouvoir à son vice-président. C'est le 25e amendement de la Constitution américaine. Mais aussi parce que tous les dirigeants, alors des dictateurs soviétiques aux présidents français comme Pompidou ou Mitterrand, mentent sur leur état de santé. Un président est convaincu qu'il doit être un surhomme pour pouvoir régner. Et si Trump en appelle à Dieu, c'est aussi parce que s'il s'en sort, il pourra crier au miracle. Il aura été élu, par Dieu en tout cas. Le problème, ce sont les conséquences de cette croyance magique. Dans le cas d'un cancer, comme pour François Mitterrand, c'est la relation de confiance qui est abîmée. Dans le cas du virus, cela conduit au déni et donc à une explosion de la maladie. Il y a en ce moment un cluster à la Maison-Blanche avec des dizaines et potentiellement des centaines de contaminés. Le contre-exemple parfait de tout ça, c'est la dirigeante de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, qui donne des interviews en pull sur son canapé, qui veille à protéger au maximum sa population. Elle bat des records de popularité en étant simplement humaine. Le paradoxe, c'est que si Trump s'en sort, il pourra remonter dans l'opinion, comme le président Bolsonaro par exemple. Donc l'avenir de la plus grande démocratie du monde est entre les mains d'un arbitre bien improbable, Wendy, le Covid-19.
Oui, avec Donald Trump qui est sous stéroïdes et anabolisants. Et son médecin, il y a quelques minutes, François Claus nous informe que, bah, comme avec toute maladie, il y a des hauts et des bas. Mais enfin, je pense que cette mise en scène quasiment minutée vous fait réagir de la même manière qu'elle fait réagir Philippe.
Oui, non, mais absolument. Alors d'abord, très clairement, oui, la santé d'un président, c'est un sujet politique. Hein, et Philippe faisait allusion à Mitterrand ou à Pompidou. Je me souviens, moi, Pompidou, il y avait une une de Charlie Hebdo à l'époque où il y avait eu une caricature de Pompidou, le visage bouffi par le traitement à la cortisone. Mmh. Et avec ce commentaire en dessous, ce n'est qu'une simple grippe. Eh bien, Charlie Hebdo avait été retiré des kiosques à cette époque-là parce qu'il ne fallait pas briser le tabou de la santé du président. Le problème avec Trump et la Maison-Blanche, c'est qu'il y a eu de telles manipulations jusqu'à maintenant qu'on ne peut pas ne pas se demander si tout ça ne serait pas une grande manipulation, un, pour se victimiser, deux, pour occuper le devant de la scène. J'ai même presque honte de devoir formuler cette idée-là. Bon, j'ai trouvé que la réaction de Joe Biden était très très bonne sur le plan politique en disant ce n'est pas une question politique, mais nous devons prendre le virus au sérieux, ce qui était une manière politique de dire que Trump ne l'avait pas pris au sérieux et qu'il le payait.
Juste un petit mot, François, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à avoir cette hypothèse-là.
Bon,
hein, parce que Michael Moore, attention, vous faites équipe avec Michael Moore, le célèbre documentariste. Oui. Selon lui, tout est un mensonge et ça ne sert à Trump qu'à rattraper des voix qu'il n'aurait perdues au cours de sa campagne via un sentiment de compassion.
À ce niveau-là, c'est énorme quand même. Enfin, en tout cas, quid du débat du 15 octobre, on en reparlera. On va terminer ce tour de table apéritif avec vous, Laetitia Krupa. Coup de cœur, coup de gueule ce soir?
Alors, un coup de cœur, un poil ironique pour Gérald Darmanin et son vocabulaire joliment fleuri.
Invité du grand rendez-vous d'Europe 1 ce matin, le ministre de l'Intérieur.
Exactement. Et ben, je m'en suis étouffée avec ma tartine, Wendy, parce que ce matin, j'ai entendu chiottes, bagnoles, dégueulasses, on s'en fout. Je vous assure, mais tout ça en même pas une minute. Je l'ai noté sur un petit bout de papier tellement ça m'a stupéfaite. Et ce n'est qu'un petit florilège.
C'est pas
restreint.
La première fois.
C'est pas la première fois. Des semaines en semaine, il évolue dans ce parler vrai. Rappelez-vous, la drogue, c'est de la merde. On va pas légaliser cette merde, c'était le 14 septembre sur LCI. Alors, la question, c'est à quoi sert d'emprunter un vocabulaire vulgaire? Alors, peut-être c'est son vocabulaire dans le privé, peut-être qu'il ne fait que parler comme il parle, peut-être dans sa famille.
Lorsqu'il était ministre du Travail, des comptes publics, de l'action des comptes publics, il n'était pas aussi fleuri, son langage.
En tout cas, maintenant, il est sur scène, c'est ce vocabulaire qu'il a choisi. Beaucoup disent que c'est l'école Sarkozy, d'autres disent qu'il se trumpise, c'est-à-dire, vous savez, Trump, il y avait des experts qui s'étaient penchés sur son langage, il avait le niveau d'un élève de CM1 pour nous, 8-9 ans, on va dire, voilà, c'était fait exprès pour qu'il soit compris le plus grand public. Mais est-ce que finalement, cette tentative de capter les voix populaires, parce que c'est l'objectif de Gérald Darmanin, capter ce vote ouvrier qui est parti au RN, ce vote aussi employé, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on convainc vraiment? Est-ce que l'électeur a besoin d'un politique miroir? Est-ce que ça fédère de voir celui qui parle vulgairement? Et est-ce que les ouvriers parlent comme ça? Enfin, je veux dire, il faut aussi se poser la question, il y a un moment, deux secondes, d'arrêter de désestimer les Français, de les mésestimer et de être persuadé que les gens qui sont en bas de la pyramide, si tant est qu'on puisse voir la société comme pyramidale, parle avec ces mots-là. Je ne sais
mais
pas, je pose simplement la question.
Ça participe d'un moment où il revendique beaucoup sa filiation, fils de femme de ménage, donc milieu très très modeste, Gérald Darmanin, et il dit en même temps, il nomme les choses, on en finit avec le laisser-aller, le risque d'attentat en France est très important, donc il dit aussi du concret, mais avec
ce
langage-là.
Oui, mais on n'est pas obligé d'être vulgaire.
Il y avait ça dans la gueule de l'autre, un excellent film avec Michel Serrault, où il jouait un candidat à la présidentielle qui disait fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier, ouvrier moi-même. Il était emporté par son élan. Et oui, c'est une posture classique. Après, le fait d'employer ces vocabulaires-là, Laetitia a complètement raison, c'est très populiste. En fait, c'est ce que faisait Sarkozy quand il disait « on va passer la banlieue au Karcher ». C'est la manière de parler de Poutine quand il dit « on va aller chercher les terroristes et on va les buter jusque dans les chiottes ». La même expression que Darmanin. Ça montre l'ambition de Darmanin. Je ne sais pas si c'est très habile, effectivement. Ça dépend si les gens jugent que c'est cohérent par rapport au personnage ou non. Par exemple, Macron se mettait à parler comme ça, on se dirait qu'il y a un problème, il ne serait pas crédible. Donc on va voir si Darmanin arrive à convaincre.
Ça me renvoie tout simplement à l'époque aussi, finalement, à mon coup de gueule. J'ai assisté à un débat sur une chaîne Tout Info. C'était au lendemain de la présentation du protocole sanitaire dans les écoles. Mm-hmm. Le thème du débat, formulé tel quel par le présentateur, quand est-ce que le gouvernement va arrêter de nous emmerder? appelé le tadana, tadana, tadana. Voilà.
Donc, est-ce que ça élève le débat ce... après ?
Il y a aussi.
Mais j'aime voilà, votre langage châtié sur Europe 1. Hein, ça fait du
non,
bien.
Pas du tout.
Laetitia Krupa, François Claus, Philippe Brochet-Brolet. À tout de suite pour le débat des grandes voix.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, elles sont là, réunies nos grandes voix du moment. Laetitia Krupa, journaliste politique, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication, président de MCBG Conseil, et François Claus, grand reporter, rédacteur en chef à Europe 1. Vous, vous êtes peut-être arrêtés, chers auditeurs, sur le sondage IFOP dans le journal du dimanche, sondage du jour. Si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui en France, eh bien, on assisterait à un match dominé par Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ah bon ? Mais le fait est que c'est dans 2 ans. On se demande toujours à quoi sert ce genre de projection si précoce, j'allais dire. L'intérêt aussi, c'est qu'on apprend que Xavier Bertrand serait le troisième homme. Vos réactions, votre intérêt sur le sujet, Philippe ?
Alors d'abord, il faut souligner l'énorme travail fait par le camarade Frédéric Dabi, qui était là hier soir, oui, de l'IFOP, parce qu'ils ont fait 11 hypothèses présidentielles.
Et on va y venir.
Pourquoi on en fait 11 ? Parce qu'en général, si on n'en fait que 2 ou 3, on a 10 plaintes de gens qui disent « Mais pourquoi vous ne m'avez pas testé ?» Et c'est un imbroglio incroyable. Donc on teste des
Bruno
hypothèses.
Bruno Retailleau, Ségolène Royal, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, tout le monde est là.
Alors le sondage a eu assez peu d'impact pour 2 raisons. C'est la première raison, c'est que c'est trop tôt. À 2 ans, on ne peut pas avoir de photographie de ce que va être la campagne présidentielle. Et surtout, je pense que les Français ne sont pas du tout dans ce match-là. Et c'est tout le problème de la politique en ce moment. C'est qu'on aimerait bien continuer à faire de la politique comme avant, avec nos vieilles ficelles politiciennes, avec nos Darmanins qui parlent de chiottes, avec la présidentielle en ligne de mire, avec les régionales. Sauf que les Français, eux, sont dans le sanitaire, dans l'économie et la sécurité quotidienne, parce que le sentiment d'insécurité monte. Donc ils ne sont pas du tout là-dedans. Et on vient leur parler de présidentielle, oui, et c'est pas leur actualité du tout.
Ce n'est pas le bon timing. Il y a un constat intéressant quand même à gauche, François Claus, sur le sujet. L'hypothèse d'une candidature d'Anne Hidalgo qui ne prend pas vraiment 7% d'intention de vote,
ouais,
pour
enfin,
François
Hollande. Mieux, elle, oui, ferait 3 points de mieux que n'a fait son collègue Hamon, hein, si on regarde.
Absolument.
Si, quand même, pour quelqu'un qui n'est pas encore candidat, bon.
5%
non,
pour
mais moi, je suis comme
Royal,
Philippe. J'ai été un peu figé ce matin en voyant le sondage. Je me suis demandé si on était en avril 2017, tout simplement. De voir, on a eu une crise économique, on a eu une crise sanitaire, on a eu une crise de la représentation politique. Et on retrouve un Macron devant, une Marine Le Pen en embuscade, un Mélenchon autour de 11%, effectivement l'émergence à droite, mais avec un score finalement pas si éloigné de celui de Fillon, d'un Xavier Bertrand. Ça serait Barouin, on serait pas loin non plus. Mélenchon qui reste à 11%, pas de percée verte, rien. Le sentiment finalement que, comme le formulait assez bien Philippe, que d'un côté, il y a le pays qui en ce moment est inquiet et morose, et il y a l'analyse politique qui ne correspond pas à la réalité. Quelque chose me dit que dans les 18 mois qui viennent, on va avoir d'autres surprises dans les sondages.
Oui, Laetitia, pour terminer là-dessus.
Oui, très rapidement, ça calme les fantasmes médiatiques, parce qu'il y a beaucoup de constructions médiatiques. Hein, Hidalgo, je ne sais pas, moi, une certaine presse rêve de la voir arriver parce que c'est une femme, parce qu'elle est de gauche, parce qu'elle a aussi ses origines espagnol, etc. Enfin bon, il y a tout un storytelling qui se met en place, qui passionne finalement avant tout les médias, pas forcément les Français, hein, au vu du résultat. Et puis, ça rassure Xavier Bertrand. Il est parti tellement tôt, Xavier Bertrand, qu'il a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, on va le voir encore. Voilà, il va nous faire des petites cartes postales, des petites séquences médiatiques. Rendez-vous dans un an.
Mais Anne Hidalgo, sa réalité, c'est que demain, 15h, elle réunira à Paris les maires d'arrondissement pour s'adapter aux mesures décidées par le gouvernement après le passage de Paris en zone d'alerte maximale, très probablement. Je voudrais qu'on parle juste après la pause de la crise financière, de l'explosion de la dette. On parle, vous savez, évidemment, de la réalité sanitaire corrélée à la réalité économique. Et ben, la réalité économique, c'est aussi ça, cette dette qui explose, plus 6 500 euros par Français.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix en débat pour quelques minutes encore, et corollaire de la situation sanitaire, la situation économique en sursis et le piège de la dette qui, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet et François Claus, a pris des proportions gigantesques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Pierre Moscovici qui, dans Le Parisien, donne une interview sur le sujet. Je vous rappelle qu'il est premier président de la Cour des comptes et il nous le dit, il nous l'écrit, il nous l'affirme. Il faut être réaliste, une dette peut être allégée, différée, mais à la fin, il faut bien qu'elle soit remboursée. Alors, quand allons-nous payer cet effet boomerang ? En tout cas, les choses sont dites si on les avait oubliées.
Oui, alors la classe politique française, elle est toujours, depuis 20 ans, elle est constituée autour de ce qu'on appelle l'orthodoxie budgétaire. Ça veut dire qu'on regarde les déficits et on les réduit, comme le veut l'Europe, à 3% maximum du budget. Donc, c'est très, très contraint. Et là, on a fait un bing-bang budgétaire total. On a ouvert les vannes et on dépense. Et du coup, ça panique un peu le président de la Cour des comptes, qui est là non pas pour faire la politique, comme il le rappelle dans son interview, mais pour en gros donner des principes de saine gestion. Et évidemment, il trouve que ça fait trop, un peu beaucoup en tout cas. Et il alerte sur le fait qu'on va devoir vivre avec cette dette après. La plupart des pays développés, cela dit, vivent avec une dette très importante. Les États-Unis pour commencer. Donc on est juste en train de changer de modèle et peut-être que c'est peut-être pas une mauvaise chose de changer de modèle et d'investir plus dans les services publics, par exemple.
Oui, c'est ça. Je voulais vous parler de l'hôpital qui réclame à cor et à cri plusieurs millions d'euros. Là, on a un plan de relance de 100 milliards d'euros. Il va bien falloir le financier.
Oui, mais j'aimerais bien justement qu'on entre dans le détail, oui. Qu'on transforme cette dette Covid, qui n'est pas pour le moment une dette d'investissement. Il va falloir à un moment donné qu'on pense à demain. Si on est là pour gérer comme aujourd'hui, de rembourser une dette, de maîtriser les dépenses, on va faire payer à la génération suivante les frais, cette même génération à laquelle on interdit aujourd'hui de sortir, de vivre, et elle devra en plus payer demain pour ses pères et ses grands-pères qu'elle a contribué à préserver de l'épidémie. Il n'y a pas un mot pour le moment, et je ne vois pas un discours économique, peut-être un peu celui d'Ursula von der Leyen dans son grand discours à l'état de l'Union en Europe, mais qui vient de nous dire investissons demain et créons les conditions d'une nouvelle croissance demain. J'ai été sidéré de voir qu'il y a 40 ans, la dette représentait 21% du PIB. Aujourd'hui, elle représente 100% du PIB. À l'époque, on consacrait 10% de cette dette à des investissements, c'est-à-dire à créer un monde de croissance et un monde meilleur pour la génération suivante. Aujourd'hui, on consacre moins de 4% de la dette publique à l'investissement. Oui. Peut-être qu'un nouveau discours économique doit émerger à l'aune de cette épidémie pour créer les conditions d'un nouveau monde demain. Parce que pour le moment, effectivement, s'il s'agit juste de maîtriser les dépenses, on est mal parti.
Et le fait qu'on n'en parle pas de cette dette.
Oui,
si
mais
peu,
François,
hein,
moi, il me semble que j'ai quand même entendu le ministre de l'économie avoir ce discours, dire que cette nouvelle croissance, un rebond de la croissance, servira à éponger une partie de la dette. Il n'est pas naïf, évidemment, il ne peut pas avoir un discours angélique. L'Europe participera aussi à éponger une partie de
avec
cette dette.
Oui.
Quid des épargnants? Est-ce que ce seront les premières victimes? Évidemment, il y aura une politique d'austérité après. On le sait, tout ça.
Bah,
je veux dire,
des impôts qui vont... Évidemment, on nous fait croire que les impôts vont augmenter, oui. On sera bien...
Évidemment. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce contexte économique très tendu, c'est la question de la confiance. Parce que sans confiance, un plan de relance, une croissance est impossible. Or, on a besoin de confiance au plan intérieur pour faire repartir la consommation. Là, les Français, vous les avez vus, ils sont à plus de 70% inquiets par le contexte actuel. Et on a aussi besoin de la confiance à l'extérieur pour que la France ne soit pas mal notée, rétrogradée, et que la signature française, qu'on appelle, c'est-à-dire la capacité de la France à rembourser sa dette, ne soit pas remise en cause. Donc la confiance est vraiment au cœur aujourd'hui de la crise.
Et là aussi, il faut dire les choses un peu de manière churchillienne. Philippe Moreau-Chevrolet, il y a cette dette que nous paierons. Il faut afficher aux Français la réalité des choses, comme le fait quand même aujourd'hui Pierre Moscovici.
Oui, mais ce que dit François est juste, il faut donner du sens à cette dette. Si c'est juste de l'argent qu'on dépense, c'est ce que je reprocherais à Pierre Moscovici. Il nous dit, vous dépensez beaucoup d'argent, d'accord, mais si on donne du sens à cette dette, si on dit pourquoi on dépense, si on explique qu'on va relocaliser l'économie, qu'on va remettre du textile chez nous parce qu'on en a besoin, remettre des médicaments chez nous parce qu'on en a besoin, si au fond on dit qu'on va redevenir une nation industrielle, manufacturière, qui peut être quasiment autonome, si c'est ça le but, c'est intéressant et on peut l'expliquer aux Français. Ce qui manque, c'est comme pour le Covid, un travail d'explication. Mmh. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait?
Merci Philippe Moreau-Chevrolet, merci Laetitia Crepa et François Claus. C'était le débat des grandes voix en ce dimanche 4 octobre. À la semaine prochaine, chers amis, et merci de suivre cette demi-heure de débat chaque week-end sur Europe 1.
Wendy Bouchard, les grandes voix. Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de l'info, le journal d'Émilie Dez. Bonsoir Émilie.
Et bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
19h au carillon d'Europe 1. Merci d'être avec nous jusqu'à 20h.
Tractopelle, chargeur, deux camions et on avance au fur et à mesure. C'est compliqué, beaucoup de pierres, beaucoup de boue, tous les 50 mètres. Quoi. On a l'impression de faire des sauts de puce et on n'avance pas, mais ça va être long.
L'heure est au déblaiement dans les Alpes-Maritimes, durement touchées par les intempéries. Des villages sont toujours coupés du monde. Les intempéries qui ont fait deux victimes, un berger français retrouvé dans le fleuve Roya et un homme découvert à Saint-Martin-Vésubie. 11 personnes sont portées disparues.
Paris retire son souffle ce soir. Demain, les bars vont-ils devoir fermer dans la capitale? Les voyants sont au rouge. Le gouvernement devrait communiquer ce soir sur la situation sanitaire à Paris avant d'annoncer demain des mesures.
La Nouvelle-Calédonie a une nouvelle fois choisi la France. L'archipel du Pacifique Sud a refusé de prendre son indépendance à 53,3% des voix. Un résultat accueilli par Emmanuel Macron avec un profond sentiment de reconnaissance.
La mort du créateur de mode Kenzo Takada des suites du Covid-19. Il avait 81 ans et nos invités ce soir, 19h15, Romain Colucci pour une nouvelle opération de levée de fonds pour les Restos du Cœur et 19h30, la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, et des mesures capitales pour le bien-être animal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est d'abord la désolation, vous le savez, dans les Alpes-Maritimes, 48 heures après le déluge qui s'est abattu sur l'arrière-pays niçois.
Le corps sans vie d'un berger français a été retrouvé dans le fleuve Roya. Un homme a également été découvert mort dans sa voiture immergée à Saint-Martin-Vésubie. Et le bilan des intempéries pourrait s'alourdir. Il y a toujours 8 disparus certains. D'autres personnes sont également recherchées. Plus de 950 pompiers sont engagés dans les recherches. L'armée a été envoyée en renfort. De nombreuses routes endommagées par les crues sont toujours coupées. Alors sur place, on déblaye, Stéphane Frangy.
Oui, exemple sur la route sinueuse du Mont Vial. Petit à petit, les agents de la voirie, comme Grégory Jugial, gagnent du terrain.
Là, c'est tractopelle, chargeur, 2 camions et on avance au fur et à mesure. C'est compliqué parce que les routes sont étroites. On a du mal à manœuvrer avec les engins et beaucoup de pierres, beaucoup de boue. Donc c'est beaucoup de boulot et puis c'est tous les 50 mètres. On a l'impression de faire des sauts de puce et on n'avance pas, mais ça va être long.
Ce qui est fait de haute lutte hein, et sur le chemin des habitants de hameaux dégagés, comme André exprime leur soulagement.
C'était bloqué en bas et au-dessus. Là, on peut circuler, il n'y a pas de souci. Ça soulage, oui, oui. Eh bien, j'essaye de déblayer mon portail parce qu'on ne peut pas sortir. Derrière, j'ai des murs qui sont tombés. Je m'estime satisfait par rapport à certaines.
Et plus bas dans la vallée, le village de Malocène est de nouveau accessible en grande partie. Mais il reste beaucoup à faire, selon Frédéric.
Plus compliqué, ça va être après. Il y a les pompiers qui devraient venir remplir les citernes d'eau parce que les canalisations, ça a explosé de partout. Alors, ça va être compliqué pour ceux qui travaillent un petit peu plus bas sur carrosse parce que là, l'accès, c'est mort. Il y a une grosse portion de route qui est partie un peu plus bas là-bas.
Et ici, seul le quartier de la gare doit être encore dégagé et de nombreux habitants s'inquiètent d'ailleurs de l'instabilité des sols avec le retour depuis cet après-midi de la pluie.
La pluie qui tombe à nouveau ce soir après une courte accalmie. Cet après-midi, la mauvaise météo a même stoppé le rapatriement des rescapés qui a finalement repris. Des rescapés accueillis à l'aéroport de Nice où une cellule psychologique a été mise en place et où ils peuvent retrouver leurs proches. L'attente a été longue, Johanna Chabas.
Et oui, car vu l'ampleur des dégâts et la météo capricieuse, les opérations de secours sont toujours très compliquées et les hélicoptères ne peuvent ramener qu'une quinzaine de personnes à la fois. Nicolas a lui attendu plus de 24 heures pour enfin être rapatrié et retrouver ses proches.
Je me suis battu pour prendre l'hélicoptère, vraiment. Parce que j'avais mes parents qui étaient morts de trouille, j'avais pas pu les prévenir. Il n'y avait aucun moyen, pas de réseau, donc je savais même pas si j'étais vivant. Donc j'ai seulement pu les rassurer ce matin en arrivant sur l'aéroport de Nice quand j'ai de nouveau eu du réseau. Je les ai appelés de suite pour leur dire ben voilà, je suis vivant, on m'a héliporté et finalement tout s'est bien fini. Quoi.
À leur arrivée, les rescapés sont accueillis par des associations qui les nourrissent, les habillent. Un groupe de psychologues est aussi présent, une prise en charge vitale, selon Hélène Delmotte, chargée de l'habitat pour la métropole Nice. Côte d'Azur.
Le plus difficile, c'est vraiment pour les personnes qui se retrouvent du jour au lendemain sans absolument rien. Les personnes, quand elles arrivent, elles sont en état de sidération. La nécessité absolue d'avoir des psychologues qui leur permettent d'être écoutées, de dire ce qu'elles ont vécu et qu'on soit à leur écoute pour répondre à leurs premiers besoins.
Une fois enregistrés, les rescapés peuvent quitter l'aéroport. Soit ils ont déjà une solution pour leur logement chez des proches, par exemple. Sinon, c'est la métropole qui les prend en charge et les loge dans des hôtels de la ville.
Johanna Chabas pour Europe 1.
Et ce soir, dans l'arrière-pays niçois, certains villages sont toujours coupés du monde.
8000 foyers sont privés d'électricité. Les équipes d'Enedis sont mobilisées pour rétablir le courant au plus vite. Mais ça va prendre du temps, selon Bernard Castille, le porte-parole d'Enedis.
On avait depuis hier soir rétabli tous les foyers qui étaient dans des zones accessibles. Et depuis ce matin, notre but est de réalimenter les foyers qui sont dans les zones non accessibles. Et comme actuellement les voies de communication terrestre ne sont pas encore dégagées, on a organisé des rotations d'hélicoptères. On a pu en réalimenter 2000 aujourd'hui. Alors ça semble peut-être peu, mais il faut avoir conscience qu'une part des difficultés d'intervention qu'on a, et puis d'autre part que l'habitat est extrêmement morcelé. Donc notre priorité, c'est d'alimenter des lieux de vie et puis des stations de pompage d'eau pour ramener des éléments vitaux pour la population. On espère que à partir de demain, on pourra avoir des accès routiers qui nous permettront de pouvoir amener à pied d'œuvre nos engins lourds. Parce qu'il faut avoir conscience qu'à certains endroits, le réseau est complètement détruit. Donc, il faut reconstruire, et ça va être un travail de longue haleine. C'est pour ça qu'on privilégie actuellement des solutions de remise en service par groupe électrogène.
Bernard Castille, le porte-parole d'Enedis au micro Europe 1 d'Élise Dangean. J'ajoute que certains établissements scolaires des Alpes-Maritimes resteront fermés en début de semaine. Les familles concernées seront contactées.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et 6 minutes sur Europe 1 dans l'actualité également, l'émotion à Villefontaine où près de 2000 personnes ont participé cet après-midi à une marche blanche.
Des anonymes et des proches de Victorine qui se sont retrouvés pour rendre un dernier hommage à la jeune femme retrouvée morte en début de semaine dans un ruisseau. Une marche blanche organisée à l'appel de sa famille.
Une question, Émilie Dez à la une, les bars et les restaurants vont-ils devoir fermer dès demain à Paris?
Les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé laissent peu de place au doute. La capitale devrait passer en zone d'alerte maximale. Le gouvernement devrait donc annoncer bientôt de nouvelles restrictions. Et même si la mesure n'est pas encore actée, dans le 11e arrondissement de Paris, les gérants sont défaitistes, Diane Berger.
Assis à une table de son bar, boulevard Ménilmontant, Zouber n'est même plus en colère. Il est las. Depuis le mois de mars, son établissement va mal.
C'était déjà assez compliqué, assez dur hein, pour nous. Fermer les bars, les restaurants, laisser les transports ainsi que les magasins de grande surface, franchement, c'est des mesures qui ne ressemblent à rien, quoi.
Quelques rues plus loin, Jérôme, responsable du café Ménilmontant, se gratte le crâne à l'idée d'une fermeture prochaine.
De toute façon, il va falloir s'adapter. Le seul truc que je ne veux pas, c'est que ça se passe au dernier moment. Qu'ils n'annoncent pas comme ils ont fait le 14 mars, 4 heures avant qu'on ferme. Il y avait de la marchandise qui était en stock et voilà quoi. Donc c'était de la perte d'argent.
Aujourd'hui, il n'a pas encore chiffré les pertes qu'il risque de connaître, mais il sait qu'elles seront lourdes. Même inquiétude pour Kamel, le patron du 11 bar, rue Jean-Pierre Timbaud. Les temps à venir vont être difficiles.
C'est un peu la peur au ventre pour beaucoup. On sait quand ça ferme, mais on ne sait jamais quand ça va réouvrir. On a vu le confinement, c'est assez catastrophique.
D'autant qu'avec les restrictions actuelles qui l'empêchent de servir ses clients après 22 heures, il estime avoir déjà perdu la moitié de son chiffre d'affaires.
Diane Berger pour Europe 1.
Donald Trump pourrait retourner à la Maison-Blanche dès demain.
Le médecin du président américain assure que son état de santé continue de s'améliorer. Il va mieux et n'a plus de fièvre. Donald Trump est désormais sous dexaméthasone, un médicament de la famille des corticoïdes utilisé pour le traitement des cas sévères du nouveau coronavirus.
Je ne connaissais pas non plus, Émilie. C'est donc le non à l'indépendance qu'il a emporté aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie.
Mais le résultat a été serré, plus serré qu'au premier référendum, avec seulement 53,3% des voix contre. Emmanuel Macron salue ces résultats, même s'il entend les revendications des indépendantistes.
J'accueille cette marque de confiance dans la République, avec un profond sentiment de reconnaissance. J'accueille également ces résultats avec humilité. J'entends la voix de celles et ceux qu'anime la volonté de l'indépendance et je veux leur dire, c'est avec vous. Ce n'est qu'ensemble que nous construirons la Nouvelle-Calédonie de demain. Et si certains voudront certainement revenir sur ce qui a été dit, ce qui a été fait, je crois plutôt que nous devons saluer la réussite de ce deuxième scrutin et nous tourner vers l'avenir. Le moment est en effet venu de répondre et d'appréhender les conséquences concrètes de tous les scénarios. Et l'État, sans se départir de son impartialité garantie par les accords de Matignon, s'engagera dans cette voie.
Le président Emmanuel Macron qui s'est exprimé cet après-midi.
Et puis le créateur de mode Kenzo Takada est mort des suites du Covid-19. Et
c'était le premier styliste japonais à s'être imposé à Paris où il a fait toute sa carrière. Kenzo Takada avait 81 ans. Le créateur était sorti d'une retraite de 20 ans en début d'année pour lancer une ligne de design.
On vous retrouve à 19h30 pour le Fil Info, Émilie. Merci. Point météo avec vous, Valérie Darmon. On a connu ces événements dramatiques ce week-end. La semaine, comment s'annonce-t-elle, Valérie?
Alors a priori sans vigilance au moins, sans vigilance orange, alors qu'actuellement, vous le savez, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Manche sont en alerte orange pluie inondation. Et aussi elle se présente sous une succession de perturbations d'ouest en est entre des accalmies temporaires. Le sud-est qui sera tout de même beaucoup moins touché qu'ailleurs, en tout cas pas de retour du beau temps durable annoncé. Alors déjà demain, le ciel va rester instable sur les trois quarts de la France, seul un petit tiers sud et les bords de la Méditerranée profiteront d'éclaircies. Mardi, on a une nouvelle perturbation atlantique qui va traverser la France, toujours d'ouest en est, accompagnée de pluies et suivie d'averses. Même les régions méditerranéennes seront concernées par ce mauvais temps cette fois et le vent soufflera assez fort de nouveau, un petit peu comme aujourd'hui. Mercredi et jeudi, on prend les mêmes et on recommence. Deux nouvelles perturbations atlantiques circulent sur les trois quarts de la France, plus actives sur le nord. Il fera meilleur, plus sec, plus beau, près des Pyrénées jusqu'au bord de la Méditerranée et au sud des Alpes. Vendredi, près de la Méditerranée, Mistral et Tramontane dégagent le ciel Ailleurs, le temps qui sera toujours gris. Entre la pluie et la neige qui fondra en montagne, il a beaucoup neigé ce week-end, il faudra surveiller les cours d'eau. Encore, les températures remonteront légèrement, mais à cause des nuages, des pluies, des averses, du vent, vous imaginez le programme, ressenti restera très frais.
Merci. Reparlons sport avec vous, Julien Froment, et on prend tout de suite la direction de Roland-Garros, il s'y passe des choses.
Europe 1. Radio officielle de Roland-Garros.
Car il se défend bien, notre Français.
Oui, exactement. La belle surprise du tournoi, hein, le Français Hugo Gaston qui est opposé à Dominique Thiem, le numéro 3 mondial. Et Simon Rubin, eh bien, il offre une belle résistance à l'Autrichien, notre petit Français.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Hugo Gaston qui était mené deux manches à zéro, 6-4, 6-4 par l'Autrichien Dominique Thiem, tête de série numéro 3. Là, on se disait que ça allait être compliqué. Et puis, Hugo Gaston, il s'est accroché pour remporter la troisième manche, 7-5. Et il y a vraiment très clairement match. Hein. Hugo Gaston, il est dans le rythme, il est totalement au niveau de la tête de série numéro 3. Un jeu partout dans ce quatrième set. Jeu de service pour Gaston qui démarre. Et il y va franchement, le Français. Des coups droits qui claquent, beaucoup d'alternance aussi. Il fait énormément courir son adversaire avec des balles coupées qui font monter Dominique Thiem, qui, eh bien, est en train un peu de craquer physiquement. On voit l'Autrichien marquer davantage en tout cas que le Français. Et voilà pourquoi on peut, à l'aube de cette quatrième manche, avoir tous les espoirs possibles. 2-7-1 pour l'Autrichien Dominique Thiem face à Hugo Gaston qui est au contact.
Merci Simon Rubin, direct du court Philippe Châtrier. Et puis la sensation dans le tableau masculin est venue de l'Italien Jannik Sinner, 19 ans, plus jeune membre du top 100. Il a battu l'Allemand Alexander Zverev en 4-7. Et puis chez les dames, à nouveau, à noter l'élimination de Caroline Garcia, battue par l'Ukrainienne Svitolina en 2 petits sets, 6-1, 6-3. La dernière Française engagée, Fiona Ferro, tentera demain bien de se qualifier pour la première fois de sa carrière en quart de finale d'un grand chelem. Ce sera contre l'Américaine Sofia Kenin.
Il y a du foot aussi avec un match qui vient de s'achever pour la 6e journée de Ligue 1. Rennes jouait face à Reims.
Oui, et c'est un coup d'arrêt pour les Bretons, Stéphane Beignet.
Effectivement, René et Rémois ont partagé les points cet après-midi au Roizen Park sur le score de 2-2. Ouverture du score par le stade de Reims à la 11e minute par Abdelhamid. Le stade rennais va vite revenir dans la partie en égalisant à la 24e par Rafinha, puis en prenant l'avantage à la 37e par Da Silva. Rennes semblait gérer cet avantage lorsque Dia, en profondeur, allait tromper Salin à la 66e minute. Rennes a eu une balle de 3-2, mais la tête de Zonzi, le ballon, et bien frappé le poteau rémois.
Alors malgré ce match nul, eh bien, Rennes rejoint Lille en tête de la Ligue 1. Des Lillois vainqueurs 3-0 de Strasbourg ce soir à 21h. L'Olympico Lyon reçoit Marseille, match à suivre dès 20h dans Europa Sport avec Lionel Rousseau.
Et il est là, bonsoir Lionel.
Bonsoir Wendy.
Au programme ce soir, Lyon-Marseille, donc avec dans l'avant-match un invité de prestige.
Absolument, une légende, Fabrizio Ravanelli, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, de la Juventus Turin, international italien, et entretien confession avec Fabrizio Ravanelli qui continue à déclarer sa flamme à l'Olympique de Marseille. Il veut toujours travailler avec l'OM. Il avait candidaté il y a quelques mois au poste des directeurs sportifs. Il avait été retoqué. Mm-hmm. Il estime que certains dirigeants dans le foot français ne sont pas au niveau et par rapport au recrutement de Marseille, là aussi, il est trop faible, notamment en attaque. Il dit tout et c'est ce soir à partir de 20h.
Sur Europe 1 avec vous. Merci Lionel Rousseau. Et puis dans le reste de l'actualité, il y a du cyclisme. Julien Froment avec la doyenne des classiques Liège, Bastogne-Liège.
Julien Alaphilippe, si j'ouvre mon micro c'est mieux. En effet, le Français qui est traîné pour la première fois son maillot de champion du monde a failli l'emporter, il a même levé les bras, mais trop tôt. Le Slovène Primoz Roglic, deuxième du dernier Tour de France, eh bien, on a profité pour le devancer sur la ligne d'arrivée. Alaphilippe sans regret car il a finalement été déclassé, il termine à la 5e position.
Julien Froment, c'était le journal d'espoir. A tout à l'heure 20h messieurs dans Europe 1 Sport sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Moi je file la rancard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
19h17 sur Europe 1. Bonsoir Romain Colucci.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Et merci beaucoup parce que nous avons extrait de la soirée spéciale qu'anime en ce moment Laurent Petit-Guillaume pour clore cette radio des Restos du Cœur. Une radio que vous avez voulu solidaire évidemment, 100% éphémère. C'est une première Romain.
Ouais, c'est une première, c'est une idée formidable et hyper généreuse de Laurent Petit-Guillaume, assisté de Bruno Guillon et Manu Lévy. Voilà, et comme on dit au Resto du Cœur, Laurent a une petite idée, comme celle que Coluche avait eue bien des années plus tôt sur Europe 1. Et cette petite idée est devenue une réalité, de la même manière que la petite idée de Coluche est devenue les Restos du Cœur. La petite idée de Laurent Petit-Guillaume, c'était de faire une sorte de radio idéale, éphémère, solidaire, pendant 48 heures. Et il a réuni pour ça 40 animateurs radio, plus des DJ qui sont venus tous les soirs nous faire du son. Et il a réussi son pari. Et ce pari est complètement fou. Voilà. Il a été mené à bien dans une bonne humeur, une joie, une libre antenne qui fait plaisir à entendre, voilà, et qui rappelle les grandes heures de la radio.
De la bande FM avec ses journalistes, ses animateurs de tous les médias. Vous êtes au Studex, c'est cette école de journalisme et d'animateurs qui est à Issy-les-Moulineaux et qui vous héberge, qui a hébergé cette radio éphémère pendant 48 heures. Radio Resto du Cœur qui avait un sens, une collecte très précise, Romain Colucci, parce qu'on est dans le concret aussi avec les restos évidemment. Il s'agissait de lever des fonds pour financer des camions frigorifiques.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les camions frigorifiques, c'est une partie importante de la logistique des Restos du Cœur, parce que, évidemment, il y a un truc qui s'appelle la chaîne du froid. Et même si ici, il y a eu beaucoup de chaud, on a fait tout ça pour la chaîne du froid. Ah ah.
Et
il fallait la faire.
Je vois que vous êtes bien entouré.
Non, il y a vraiment beaucoup de bonne humeur ici. Ça s'est super, super bien passé. Ouais. Les camions, voilà, grâce à cette opération, il faut savoir qu'un camion, ça coûte cher. Ça coûte 40 000 euros, un camion frigorifique neuf. Et grâce à cette opération, on a réussi à en acheter 6.
C'est voilà. Magnifique.
Donc oui. On a déjà réuni plus de 240 000 euros. Et les animateurs, tout le monde est venu travailler bénévolement, évidemment. Mm-hmm. Et il y en a même qui ont fait des dons. Et je voudrais en citer deux. C'est Arthur et Nagui.
Eh bien, merci,
voilà, on les remercie
pour
énormément.
Eux, hein, parce que vous parlez de bénévolat, c'est au cœur aussi de cette chaîne de solidarité. Vous qui êtes bénévole au resto dans le sillon de vos parents, Coluche et Véronique Colucci, et Romain Colucci, 240 000 euros, 6 camions frigorifiques récoltés. Vous fédérez pour la bonne cause et il faut trouver aussi maintenant de l'argent partout, le plus possible, parce que le Covid aussi s'est engouffré malheureusement dans cette chaîne de solidarité. Vous traversez une période compliquée, honnêtement, pour l'appel aux dons et pour le recueil de dons aujourd'hui au resto.
On va traverser une période compliquée, on va avoir un hiver cruel, c'est sûr, on le sait, les chiffres sont pas bons et on a peur qu'ils empirent en fait. Donc les dons sont les bienvenus, il va falloir beaucoup de solidarité parce que c'est la meilleure arme, c'est la seule en fait, qu'on ait pour lutter contre la précarité. Mais elle est vachement efficace, quand on est ensemble, on est efficace. Et c'est ce que prouve d'ailleurs Radio Resto, c'est qu'en unissant toutes nos forces, l'union fait la force et on arrive... Petit à petit, un petit don, un petit don, un petit don, un petit don, ça fait un gros camion.
Et voilà, bravo. Et il faut diversifier les financements. Ça nous rappelle ce que faisait votre père, Coluche, au tout début. On a retrouvé avec Sylvaine Denis une archive Europe 1. Nous sommes en février 1986. Coluche organise un match de foot pour la bonne cause, pour les restos. Écoutez.
C'est le tournoi des enfoirés, hein, en vrai. Hein. Alors, on a Julien Clerc, Cyril Guimard, qui n'a donc jamais été footballeur non plus, un cycliste. Patrick Sébastien, il était rugbyman, il faudra faire attention. Francis Cabrel, comme son nom l'indique, donc Brel. Farid Chopel, le groupe Téléphone. Donc, si c'est occupé, c'est la CGT. Vous avez Michel Leb. Thierry Ray, c'est la moindre des choses. C'est lui qui organise avec son homonyme, on dit. Ouais. Olivier Ray, dans l'autre sens, donc il y a une Ray... Et Christophe Malavoie m'a dit, si là ça ira mieux. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Louis Acariès quand même, qui va faire assez mal à mon avis. Ouais. Michel Blanc, Gérard Jugnot. On fait ça à 7. Enfin, ouais. C'est à Saint-Ouen. On est 7 sur le terrain, c'est compliqué.
Voilà, c'est exactement cette ambiance aussi que vous avez retrouvée un peu pendant ces dernières 48 heures, Romain Colucci.
Oui, c'est exactement cette ambiance, parce que il y a beaucoup d'animateurs, Arthur l'a très bien dit, qui ont écouté Coluche quand ils étaient plus jeunes et Europe 1, et qui ont adoré et qui sont vraiment des descendants de la libre antenne et de la parole libre, et on a pu en profiter tout le week-end. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les
en podcast, tout, hein,
en oui. podcast, voilà, oui. sur Radio Resto. Sur Twitter et en podcast. Vous pouvez tout réécouter. Et vous, évidemment, si ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à faire un don.
Ah oui, et je voudrais parler justement de ce que vous proposez aussi avec votre association Les Restos du Cœur. C'est que nous pouvons, à titre personnel, individuel, entrepreneurial, organiser des collectes restos. Ça, on ne le sait peut-être pas assez, Romain Colucci, même s'il y en a beaucoup de collectes, mais vous incitez vraiment les uns les autres à faire même des petits dons, des petites collectes.
Ouais, tout à fait. Des collectes d'entreprise, comme ça se fait beaucoup, comme on fait des collectes pour payer des vacances à des copains, et ben on peut faire aussi des collectes pour offrir des repas à ceux qui en ont le plus besoin, parce que je crois que voilà, le droit à un repas, c'est le premier des droits. Et tous ceux qui partagent cette idée, et ben, c'est des héritiers de Coluche et c'est des enfoirés.
Voilà.
Et donc, il faut le faire. La loi Coluche vous y aide. Hein, c'est une loi que Michel avait réclamée avant de nous quitter, et qui est très importante parce qu'elle permet de défiscaliser pour tous ceux qui sont imposables. 75% de votre don vous est remboursé, en fait, il est déduit de vos prochains impôts.
Oui.
Et cette somme, aujourd'hui, le plafond a été augmenté à la demande des sénateurs, et il est monté à 1 000 euros. Voilà. Alors pour l'instant, c'est une mesure temporaire. On espère vraiment qu'elle va être pérennisée, parce que c'est très très important, la loi Coluche.
Oui, bien sûr.
Pour toutes les associations, je le dis d'ailleurs, pas seulement pour les Restos du Cœur.
Mais par exemple, vous pouvez collecter pour les 70 Restos bébés du Cœur, une aide matérielle, des conseils en pédiatrie pour les bébés de la naissance à 12 mois. Je vous donne un exemple très concret. Le concert des Enfoirés, il est en suspens pour l'instant. La tournée, c'est prévu, il est en enregistrement en février. Mais voilà, on est tous un petit peu suspendus à l'actualité sanitaire. Or, c'est très important pour vos financements pour le Resto chaque année.
Évidemment, c'est 12% des recettes des Restos du Cœur, le concert des Enfoirés. On ne sait pas dire aujourd'hui dans quelles conditions ça va se passer. Ce qu'on espère, c'est que ça va se passer. Voilà. C'est qu'il y aura un événement, on va faire quelque chose.
De toute façon.
Les artistes vont se réunir et on ne va pas baisser les bras, parce que c'est la dernière des choses à faire.
Dernier mot, Romain Colucci, la campagne d'hiver des Restos, elle commence quand ?
Elle commence fin novembre, mais en réalité, maintenant, les restos sont ouverts toute l'année. Et pendant le Covid, nous, on a vécu une sorte de deuxième hiver, hein, si vous voulez, parce que ça a été dur. Il faut remercier les bénévoles. Ils ont travaillé, vraiment, ils ont été exemplaires, extraordinaires. Ils ont jamais lâché la main des personnes les plus précaires.
Eh bien, vous non plus. Et je remercie vraiment Laurent Petit-Guillaume de vous avoir prêté quelques instants. Voilà, j'aurais vraiment aimé m'associer à cette radio éphémère, mais je faisais cette antenne sur Europe 1 et vous êtes là et nous sommes ensemble d'une quelque manière que ce soit. Bruno Guillon, Coé, Arthur, Manu Payette, Manu Lévy étaient avec vous. Merci Romain Colucci. Restoducœur.org pour les dons. À bientôt et bravo.
Merci et à l'année prochaine.
Merci. Sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
On se retrouve dans un instant avec Planète Sauvage, le fil info et sur Europe 1, donc la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, qui nous détaille son plan pour le bien-être de la faune sauvage et captive. Ce sera juste après le journal de l'environnement de Virginie Salmen. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Le journal de l'environnement.
C'est le journal de l'environnement, comme chaque week-end sur Europe 1. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
On parle aujourd'hui du compost. C'est une idée qui séduit de plus en plus de Français. 7 sur 10 aimeraient pouvoir faire leur compost eux-mêmes. Et quand on parle des jeunes, ça grimpe jusqu'à 81%. Sondage OpinionWay. Et vous nous expliquez dans cette chronique, Virginie, que finalement, faire du compost, eh bien, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît.
Oui, et ça n'est pas qu'une lubie d'écolo, puisque d'ici 3 ans, nous devrons tous passer au compost. C'est ce que prévoit la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Chaque commune devra proposer une solution de ramassage au moins.
Alors ça sert à quoi le compost ?
Alors ça sert à faire maigrir nos poubelles d'environ 30%, si vous préférez ces 30% de déchets en moins à incinérer ou à enfouir dans des décharges. D'autant que tout ce qui va dans le compost, les épluchures de légumes, le marc de café, le pain, etc., tout ça contient des nutriments et des fertilisants extrêmement précieux pour la terre et les plantes, donc ça n'a aucun sens de les jeter.
Alors c'est très bien tout ça, mais comment on fait ? Et je pense à ceux qui sont dans l'appartement. Hein.
Voilà, donc si vous avez un jardin, effectivement c'est simple, hein, il suffit d'un bac en bois couvert posé à même la terre, et si vous êtes un appartement. Alors, il y a la solution d'abord des 3 bacs superposés avec des lombrics dedans.
Des petits vers de terre.
Voilà, j'imagine que vous faites peut-être un petit peu la grimace. Alors, vous pouvez le mettre n'importe où dans l'appartement.
J'attends plus de détails.
ça peut être assez drôle et éducatif avec des enfants, mais évidemment, vous n'êtes pas forcément prêt à imaginer des lombrics, un bac à lombrics dans votre cuisine. Vous pouvez donc aussi mettre vos épluchures au jour le jour dans un petit seau avec un couvercle que vous allez ensuite vider à l'extérieur, soit dans un bac à compost d'immeuble ou de quartier, ou que vous allez déposer devant chez vous quand il y a, effectivement, déjà ça existe, un ramassage organisé par la commune.
Mais un compost, ça n'émet pas d'odeur dans une cuisine ?
Alors, ça ne sent rien. Vraiment, j'ai testé. Hein. Ça ne sent rien. Si vous respectez une règle simple, il faut mettre moitié de déchets verts, moitié bruns, c'est-à-dire autant d'épluchures de fruits et de légumes, de quignons de pain, etc., que de cartons, de feuilles mortes ou de papier journal. Votre compost, dans ce cas-là, sera équilibré, donc pas trop humide, pas trop sec, et ça ne sentira rien.
D'accord.
Le truc, c'est de mettre toujours en appartement, sur le dessus du seau, un morceau de carton, par exemple, pour éviter d'attirer les insectes. Il ne faut pas que ce soit humide sur le dessus.
D'accord.
Et vous vous rendrez compte que quand ça prend finalement très peu de place, un compost d'appartement, que ce soit avec ou sans en verre, tout simplement parce que tous les déchets que vous y mettez se réduisent très rapidement en se transformant en compost. Un kilo de déchets biodégradables ne pèse plus que 150 grammes en quelques semaines.
D'accord, et ensuite on en fait quoi de son compost ?
Alors, la gratification, c'est quand le compost est mûr, au bout de, en moyenne 9 mois, ça donne une sorte de terre noire grumeleuse qui sent le sous-bois et qu'on peut utiliser pour faire pousser des fleurs, des tomates, du persil, de la sauge, même sur un petit balcon. Et ça, c'est la vraie récompense.
Très bien, à méditer. Voilà. Si vous êtes en appartement, on va regarder un peu plus dans le détail cette possibilité de faire du compost. En tout cas, ça séduit les Français.
Si vous avez les verres ou pas, ça dépend.
Voilà, lombric ou pas lombric. Voilà, merci ça. Virginie Salmen. À la semaine prochaine.
Bonsoir.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h29 sur Europe 1, si vous nous rejoignez, bonsoir à vous tous, voici le fil info, Émilie Dez.
L'arrière-pays niçois sous le choc après le déluge qui s'est abattu dans la région. Le corps d'un berger français a été retrouvé dans le fleuve Royal. La victime avait disparu dans la région du col de Tende. Un homme a également été retrouvé mort à Saint-Martin-Vésubie. Au moins 4 corps ont été récupérés sur les côtes italiennes. Et ce soir, certains villages sont encore coupés du monde, sans eau potable ni électricité. Des écoles resteront fermées demain. Comment va Donald Trump, toujours hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19? Son état continue de s'améliorer selon son médecin. Le président américain qui a été placé sous stéroïdes pourrait sortir dès demain de l'hôpital. La Nouvelle-Calédonie a une nouvelle fois choisi la France, l'archipel du Pacifique Sud. Elle s'est prononcée contre son indépendance à 53,3% des voix. L'émotion à Villefontaine, où près de 2000 personnes, anonymes et proches de Victorine, ont participé cet après-midi à une marche blanche en hommage à la jeune femme, retrouvée morte en début de semaine dans un ruisseau. Et puis la mort du créateur japonais Kenzo Takada, des suites du Covid-19. Il s'est éteint à l'âge de 81 ans.
Merci Émilie. Valérie Darmon reste demain sous un ciel homogène, c'est-à-dire toujours très gris, Valérie.
Et oui, absolument, Wendy. De la Bretagne aux Hauts-de-France à la Lorraine, en passant par la Champagne, les Ardennes, le bassin parisien, le temps qui reste pluvieux tout au long de la journée, contrairement à ce week-end. Le vent souffle toujours assez fort, un peu comme ce dimanche, avec des rafales proches de 70 km/h. De la Nouvelle-Aquitaine au Massif central, les averses sont fréquentes, parfois fortes et orageuses. En montagne, il neige au-dessus de 1700 mètres, non seulement sur les Pyrénées, mais aussi sur les Alpes. Et puis, retour du beau temps, retour vraiment à l'amélioration qui s'installe en région PACA. Et si mes connexions avec le ciel sont bonnes, eh bien, amélioration surtout attendue sur le Pays Basque, les Pyrénées-Atlantiques et la Manche, où les alertes orange, fortes pluies, inondations seront levées normalement demain.
Merci Valérie Darmon.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, Planète Sauvage.
Voici Planète Sauvage, comme chaque dimanche, l'actualité des animaux sur Europe 1, avec cette semaine les annonces importantes de la ministre de l'Environnement et de la Transition écologique sur le bien-être de la faune sauvage et captive, des dauphins aux visons. Bonsoir Barbara Pompili.
Bonsoir.
Et merci de venir répondre encore à quelques interrogations sur ce sujet, vous qui avez été saluée unanimement par toutes les associations de défense des animaux. C'est dire que les attentes étaient importantes en l'espèce. Maintenant, j'allais dire tout commence. D'ailleurs, vous n'avez pas donné de date pour la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques. Pourquoi ?
Tout d'abord parce que je veux que les choses se fassent de la meilleure manière possible en accompagnant toute une profession qui va devoir se réinterroger profondément. Mmh. Et je veux qu'on puisse discuter avec les circassiens pour se mettre bien d'accord sur les échéances. Mais les échéances, de toute façon, seront courtes. Et je pense surtout qu'il faut qu'ils entendent et que tout le monde entende que là, nous sommes à un tournant. On est vraiment là sur le franchissement d'une étape vers une société qui est consciente de sa responsabilité vis-à-vis de la nature. Et cette étape-là, on doit la passer le mieux possible.
Je vais tout de suite relayer un certain nombre de discours sur le sujet, notamment Julien Aubert, aujourd'hui dans l'actualité politique, qui s'écrit « Mais alors finalement, où nos enfants verront-ils ces animaux s'ils n'ont pas la possibilité de se payer un safari en Afrique ?» Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je pense que ce sont des critiques qui appartiennent à un autre monde. Les animaux sauvages, leur place normalement et dans la nature. Et les lieux où ils doivent rester en captivité parce que les zoos peuvent jouer un rôle justement dans l'éducation à la nature, dans la conservation de la nature, dans la préservation de la biodiversité, mais aussi dans la sensibilisation, parce que je pense que c'est en étant aussi émerveillé qu'on a envie de défendre, eh bien, les eaux, justement, pourront jouer ce rôle à l'avenir, surtout si les eaux prennent la direction qu'ils sont en train de prendre actuellement, qui est une direction complètement différente de ce qu'on a pu connaître il y a 20 ou 30 ans.
Oui, ils conservent d'ailleurs dans votre plan une place à part, ces eaux. Alors, on connaît les eaux nationaux, les eaux publiques. Pour les eaux privées, vous allez les suivre de très près. Il y a parfois des conditions terribles de captivité dans ces petites structures qui n'ont pas le financement suffisant.
Oui, bien sûr. Les eaux aujourd'hui sont entraînées vers le haut par certains qui sont, on va dire, en avance et qui ont pris des mesures particulières pour que les animaux qui y vivent dans les meilleures conditions possibles. Mais on doit accompagner tous ceux qui aujourd'hui n'y sont pas encore. Donc, en augmentant les contrôles, et ça fait partie des annonces que j'ai faites lundi, on va augmenter les contrôles et tous les eaux qui auront besoin de s'adapter. On sera avec eux. Et les eaux qui vraiment ne peuvent pas s'adapter parce qu'ils ne sont pas dans des conditions qui permettent aux animaux de bien vivre, eh bien, ces eaux devront s'arrêter. Et moi, j'ai demandé aussi, y compris aux associations de protection des animaux, de nous faire remonter les alertes quand il y a des situations de maltraitance. Et sur ces situations de maltraitance, évidemment, nous serons intraitables parce qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui que des animaux soient encore maltraités dans les lieux où ils sont enfermés.
La ministre Barbara Pompili est avec nous sur Europe 1 en ce dimanche, journée mondiale des animaux. Vous qui avez donc acté mardi la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques, la fin de la présence d'orques et de dauphins dans des delphinariums inadaptés. Alors inadaptés, est-ce que le parc Astérix, est-ce que le Marineland d'Antibes par exemple entre dans cette catégorie, Barbara Pompili ?
Oui, alors il y a eu une petite incompréhension sur ce terme d'inadapté. En fait, quand j'ai fait mes annonces, j'ai parlé des delphinariums, virgule, inadaptés à la vie de ces animaux que sont les dauphins et les orques. Et donc, certains ont cru qu'il pouvait y avoir des delphinariums adaptés. Alors, je vous confirme que mes annonces concernent bien tous les delphinariums qui sont sur le territoire français.
Très bien.
Donc, il y en a trois. Je vous confirme qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet.
Très bien. Le delphinarium où la reproduction sera interdite. Vous avez annoncé des horizons pour les orques à 2 ans, pour les dauphins à 7 ans. Après cet horizon-là, on ne trouvera donc plus ces espèces dans les delphinariums de France.
Tout à fait. Le principe de se donner un peu de temps, c'est que pour les dauphins, il y a besoin de pouvoir leur trouver un lieu où ils puissent continuer leur vie.
Bien sûr.
On ne peut pas se permettre de dire « je ferme un établissement du jour au lendemain et puis tant pis, les animaux, on ne s'en occupe pas ». Il faut qu'on fasse très attention, et ce sera la même chose d'ailleurs pour les animaux qui sont dans les cirques itinérants aujourd'hui. Il faut qu'on puisse leur trouver des lieux où ils puissent continuer leur vie, finir leur vie en toute quiétude. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. On ne peut pas remettre ces animaux dans la nature comme ça parce qu'ils ne sont pas adaptés à la vie dans la nature. Ils n'y survivraient pas.
Pour les dauphins, on parle d'un sanctuaire en Grèce. Est-ce qu'il n'est pas temps de lancer aujourd'hui une forme d'appel à projet pour que ces lieux naissent en France, aussi bien les refuges pour les fauves ou pour ces mammifères marins ?
Oui, alors on a déjà commencé à y travailler.
Oui.
J'ai reçu cette semaine les associations qui s'occupent de la protection des animaux,
très
que
bien.
Ce soit la SPA, 30 millions d'amis, la Fondation Bardot et d'autres. On a déjà discuté de cette question-là, de cette question des sanctuaires, de cette question des refuges. J'ai aussi commencé à discuter avec les zoos, puisque certains zoos, alors là pas pour les dauphins en l'occurrence, mais pour les autres animaux, pourront aussi prendre en charge un certain nombre de ces animaux. Ça va demander une forte coordination pour que tous les acteurs et tous les professionnels, parce qu'il faut que ces animaux soient encadrés par des professionnels, soient mis autour de la table et qu'on trouve des solutions pour chacun. Moi, je ne veux pas laisser des animaux sans solution. Et puis, bien évidemment, mais là, on parle spécifiquement des animaux, mais il y a aussi des personnes, des professionnels que nous devons accompagner dans une transition.
Et ce sont des mesures qui vont aussi dans le sens du référendum pour les animaux. À ce jour, Barbara Pompili, 142 parlementaires favorables à une loi allant en ce sens. C'est un mouvement, c'est une mobilisation que vous suivez au quotidien.
Oui, bien sûr. Ces démarches qui sont faites par la société civile sont des démarches qui reflètent une prise de conscience et aussi une préoccupation de nos concitoyens sur la manière dont les animaux sont traités dans notre pays. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On a une société qui évolue et les mesures que j'ai prises et puis certaines qui peuvent arriver par la suite doivent vraiment refléter cette étape vers une société responsable vis-à-vis des animaux, que ce soit les animaux sauvages ou les animaux domestiques. Donc c'est un mouvement. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'on sorte un petit peu parfois des réflexes passionnels parce qu'on parle d'être vivant. Mmh. Donc il faut faire les choses correctement, mais ce mouvement, il est nécessaire. Et moi, je suis très heureuse d'y prendre ma part. Je suis très heureuse qu'aujourd'hui, d'ailleurs, qui est la journée mondiale des animaux, qu'en cette journée mondiale, on puisse un peu fêter cette étape qui est passée. Mais comme je vous le dis, c'est une étape.
Barbara Pompili, on suivra et les associations suivront évidemment scrupuleusement l'application de ces annonces, mais je le souligne, leur position unanime, la Fondation 30 millions d'amis a déclaré cette semaine enfin un ministre qui prend en compte les attentes du public pour le bien-être animal. Merci de votre présence dans Planète Sauvage et sur Europe 1 ce soir, Barbara Pompili.
Merci à vous.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Il est 19h39. Bah, on va rester dans le thème dans un instant. Les animaux en chanson. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Puisque nous sommes à quelques jours de la sortie du film Polly, vous nous avez sélectionné des animaux en chanson avec les anecdotes à la clé. C'est juste après.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Une chanson dans la tête.
Voici pour vous accompagner en chanson et en anecdote chaque week-end notre spécialiste Fabien Lecoeuvre. Bonsoir Fabien.
Rebonsoir. Oui.
Nous sommes donc, Barbara Pompili le disait, en cette journée mondiale des animaux et à 3 jours de la sortie au cinéma du film Pony. Et vous nous racontez quelques chansons qui célèbrent les animaux, à commencer par un Shetland renommé justement.
Eh oui, Polly, Polisson, interprété par Isabelle Aubray, générique des aventures de cet adorable poney Shetland qui fut le héros de la série télévisée entre 1961 et 1973.
Polisson, tourne, tourne, tourne en rond, tu es un petit cheval.
Ça va rappeler quelques souvenirs à nos auditeurs aficionados de cette série.
Bien sûr, et mercredi au cinéma, Wendy, vous découvrirez l'adaptation de ces livres de Cécile Aubry dans le film de Nicolas Vanier avec François Cluzet et Julie Gayet.
Alors vous nous parlez cheval, c'est un animal qui a tant inspiré les chansons.
Ben oui, notamment le petit cheval interprété par Georges Brassens en 1952 d'après un célèbre poème de Paul Fort qui relate la vie et la mort d'un cheval courageux.
Le petit cheval dans le mauvais temps qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui.
Quand on chante les chevaux, ce sont toujours des chansons qui tirent les larmes. Je ne sais pas s'ils se sont donné totalement le mot, les artistes, mais puisque vous nous parlez de grands artistes, eh bien parlons d'Hugo Frey, autre chanson bouleversante.
Évidemment.
Il s'appelait Stubble, c'était un cheval blanc, il était mon idole.
Alors c'est une chanson anglo-saxonne au départ, adaptée en français par Pierre Delanoë et Hugo Frey en 1966 et qui figurait sur le même 45 tours que le titre Céline. Alors à l'origine, Wendy, c'est au 18e siècle en Irlande que cette chanson a été créée lors d'une course hippique. Mm-hmm. Un légendaire cheval blanc aux origines modestes avait gagné la course contre une jument grise de grande lignée appartenant à une riche propriétaire. Alors la chanson bien sûr est devenue, on peut le dire, un symbole de revanche sociale et beaucoup d'Irlandais l'ont emporté avec eux quand ils ont immigré en Amérique.
Les chiens aussi ont inspiré les chanteurs. Vous nous aviez parlé dans une belle chronique de Baltique, le chien de François Mitterrand.
Et bien sûr, bien sûr.
Chanté par Renaud.
À part Renaud, bien sûr. Et puis la plus connue peut-être, la première, oui. Mirza par Nino Ferrer.
Vous avez pas vu Mirza ? Vous avez pas vu Mirza ? ça. Oh là 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 là. J'avais pas vu Mirza.
Mirza, c'est un chien qui aura existé autrement que dans cette chanson.
Bien sûr, en tout cas une chanson rigolote qui lui avait été inspirée à Nino Ferrer par une chienne recueillie par ses parents au départ et aussi par un concert au Théâtre de Verdure à Nice au cours duquel une spectatrice l'avait interpellée entre deux chansons pour lui demander de faire une annonce car elle avait perdu son chien baptisé Mirza. Et du coup, Nino s'était lancé dans une improvisation en chanson. Et quelques semaines plus tard, cette impro d'un soir devenait un disque.
Voilà pour les chevaux. Pour les chiens, les chats aussi, Fabien Lecoeuvre, ont inspiré des chansons.
Bien sûr, Wendy, Charles Baudelaire écrivait déjà « Le chat, c'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. » Alors souvent, pour Baudelaire et par Baudelaire, beaucoup ont chanté les chats. Les Rolling Stones, les Cure, les Pink Floyd, Renaud avec le petit chat est mort, souvenez-vous. Mmh. Et en 1992, le groupe Powwow qui écrit et enregistre Le Chat, une chanson a cappella qui connaît un immense succès. Il se classe numéro 1 au top 50 d'Europe 1 pendant 7 semaines.
Moi, vouloir être le chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être le chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être le chat, retrouver sur les...
Le chat, Powwow, numéro 1, top 50 d'Europe 1 pendant 7 semaines, vous nous le disiez, Fabien. Et puis alors, il y a parfois des animaux exotiques, surprenants, des kangourous, héros de chansons, oui.
Kitty, Kitty, regardez tout avec...
C'est la télé aussi.
Ah
hein.
Oui, Skippy le kangourou, une série télévisée australienne de 91 épisodes et diffusée en France à partir du 5 février 1968 et multidiffusée depuis, bien sûr. Plusieurs millions d'enfants de plusieurs générations ont alors chanté ce générique immortel.
Skippy le kangourou, mais aussi les dauphins, Flipper évidemment. On est dans les années 60 aussi. Hein.
Complètement. Des millions d'enfants en France ont regardé cette fameuse série télévisée américaine diffusée à partir du 13 novembre 1966 sur la deuxième chaîne de l'ORTF et rediffusée en 75 sur TF1 dans l'émission Les Visiteurs du Mercredi, en 1989 sur France 3, en 1991 sur M6 et en 2009 sur France 5. Et puis, on est obligé de penser aussi en 1976, Gérard Lenormand qui avait si bien chanté... Le gentil dauphin triste.
Je ne suis pas méchant, tu le sais bien. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. On va rater nos vacances.
Ce n'est plus une chanson dans la tête, c'est un bestiaire en cette journée mondiale des animaux. Les lapins ont aussi été les héros des chansons. Ça va plaire à tous nos petits auditeurs qui nous écoutent ce soir.
Et oui, dans cette arche de Noé, Wendy, on se souvient tous du lapin de Chantal Goya.
Ouais, qualifié de première chanson écolo, puisqu'on inverse le rôle de la victime, évidemment, et du tueur.
Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil.
Elle est où, cette chanson ?
Cette chanson, Wendy, est née à Oudan, dans les Yvelines, au lieu dit La Toque. Alors à la fin des années 70, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout y possédaient une maison. Et un jour, Chantal reçoit la visite de plusieurs chasseurs du coin qui viennent lui annoncer que les pneus de leurs 10 voitures ont été à plusieurs reprises dégonflés à coups de paille dans les valves. Vous savez, c'est une technique pour faire dégonfler les pneus. Alors ils accusent le fils de Chantal, Jean-Paul, d'être le meneur de cette vendetta contre eux et demandent à être indemnisé. Alors le petit garçon, âgé alors d'une dizaine d'années, ne tarde pas à avouer que c'est bien lui et ses copains du village qui ont commis ces méfaits. Mais ils justifient leur action en disant qu'ils voulaient simplement défendre les lapins si injustement tués par les méchants chasseurs. Cette histoire va alors inspirer Jean-Jacques Debout qui travaille ce jour-là avec son complice, bien sûr le comédien et auteur Roger Dumas, dans le salon.
Incroyable. Et pour terminer ce tour d'horizon de ces chansons consacrées aux animaux, on n'oublie pas de parler des oiseaux, évidemment.
Bien sûr, Wendy, les oiseaux qui ont souvent inspiré des chansons et en ont même... composé. Saviez-vous que c'est en sortant, en reportant justement une mélodie sifflée par un oiseau dans les jardins de la Mamounia au Maroc, à Marrakech que Michel Polnareff a composé Am Kaline. Ah, et que Gilbert Montagné aussi a entendu un jour siffler, ça faisait...
ça faisait The Fool, quoi.
Un oiseau dans le jardin de sa grand-mère dans l'Allier qu'il a composé justement, bien sûr, The Fool.
Ça faisait ça, ouais.
Ouais.
Et puis en 1968, Fabien ?
Bien en 68, lorsque Pierre Delanoë adapte une messe créole intitulée Alléluia, Alléluia pour Gilles Dreux, il a l'idée de lui donner le nom de Alouette. Le disque sort sur le label AZ, qui fait partie du même groupe que la station Europe 1. Le directeur des programmes, Lucien Maurice, adore cette chanson et décide de la programmer régulièrement.
Alouette, Alouette, pauvre petite bête.
Merci pour ce joli tour d'horizon. Vous me parlez d'oiseaux. Je pense à ouvrez la cage aux oiseaux.
Oh là là,
on y reviendra
oui.
La semaine prochaine.
Bah évidemment, puisque la semaine prochaine, je vous raconterai mes histoires sur Pierre Perret et puis bien sûr sur notre ami Lynn Renaud.
Toutes ces anecdotes à retrouver sur le podcast d'Europe 1. Merci Fabien Lecoeuvre. Vous nous faites du bien chaque samedi, chaque dimanche sur Europe.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Jusqu'à 20h, je vous laisse avec Mathieu Béliard et ses éclaireurs. Nouveau rendez-vous en podcast. Son invité ce soir, Julia Cagé, et son livre Libre et égaux en voix. On vous explique tout ça après la pause.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est avec nous chaque dimanche soir dans ce 18-20. Bonsoir Mathieu Béliard.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Avant de réveiller très tôt demain dès 7h les auditeurs, vous nous autorisez à vous écouter sur le temps long dans le podcast Les Éclaireurs, qui suit un petit peu les personnalités qui font aussi le monde qui nous intéressera demain. En l'espèce, une femme aujourd'hui économiste que vous avez rencontrée et qui nous éclaire précisément.
Julia Cagé, alors elle est prof d'économie, elle a beaucoup écrit sur l'économie et là elle s'attaque à un autre sujet dans ce livre « Libre et égaux en voix ». Qu'est-ce qui peut soit sauver, soit améliorer, hein, selon le point de vue, notre fonctionnement démocratique ? L'idée, c'est de donner à chacun une voix qui pèse autant qu'aux autres hein, dans une démocratie fonctionnelle.
C'est très gilet jaune, tout ça.
Et elle réfléchit, évidemment, à partir des gilets jaunes, mais d'autres mouvements. On peut penser à Extinction Rébellion, au fait que les gens se sont appropriés la politique d'une autre manière, en allant dans la rue, et que ce n'est pas forcément le plus efficace. Alors avec elle, on s'amuse, finalement, à imaginer d'autres fonctionnements, le tirage au sort, le référendum, d'autres modes de scrutin, peut-être des quotas. Et on avance sur l'idée de donner plus de voix à certains, un peu moins à d'autres peut-être, bref, d'équilibrer tout ça.
Elle parle de la démocratie participative, des outils comme le référendum d'initiative populaire, j'imagine, avec
c'est
vous.
C'est le bon mot, Wendy. Elle parle d'outils. Le référendum, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un fonctionnement démocratique en soi, c'est un outil parmi d'autres. Ce qui m'a fasciné, c'est que cette volonté de référendum, elle est arrivée des ronds-points des gilets jaunes beaucoup ces derniers temps. Et elle a un regard sur ces mouvements contestataires qui est intéressant. Elle vient tout simplement nous dire, là où on a parlé de passion triste, de référence aux années 30, qu'il y a une aspiration démocratique, que les gens, quand on regarde les réseaux et tout ça, ont besoin d'un peu plus de démocratie et de se faire entendre un peu plus. Et c'est de ça dont on parle dans ce podcast.
Dans Les Éclaireurs, pendant une trentaine de minutes, mais ce soir, quelques minutes pour vous plonger un petit peu dans cette ambiance avec vous, Mathieu Béliard, et Julia Cagé, votre invitée.
Vous avez complètement articulé aujourd'hui notre débat public et politique autour d'un face-à-face qui me paraît complètement faux, qui serait un face-à-face entre le populisme et le progressisme. Le populisme, ça serait le peuple plein de passions tristes, là où le progressisme aurait absolument raison.
On est d'accord que, par exemple, populisme, c'est hyper dur à définir.
Ah mais je pense que ce terme est une catastrophe. Je pense que l'usage de ce terme est vraiment problématique. Je pense que l'usage répété de plus en plus de ce terme pose un problème parce que ça permet de tout mettre dans un même sac et d'éviter finalement d'entrer dans le débat public et d'éviter d'entrer dans le fond des politiques publiques. On va qualifier de populistes tout à la fois les électeurs de Marine Le Pen et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, sauf que fondamentalement dans leur programme politique et dans les caractéristiques même socio-économiques de leurs électeurs, il y a énormément de différences. Puis on va utiliser le même mot pour Erdogan, et puis pour Trump, et puis pour Bolsonaro, et en fait on marche sur la tête, parce que ça veut dire que tout ce qui ne correspond pas à une certaine ligne qu'on voudrait qualifier de progressiste, on le qualifie de populisme. Et c'est l'autre gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'on refuse de donner une chance au point de vue de l'autre. Et je pense qu'il est urgent de redonner une chance à tous les points de vue. Et ça, c'est d'autant plus important aujourd'hui, à l'heure de la crise sanitaire.
Nous avons réussi le pari du dépistage massif, mais nous sommes, au regard du nombre de tests réalisés chaque jour, confrontés à de réelles difficultés organisationnelles. C'est un embouteillage.
Ce dont on souffre aujourd'hui, c'est que comme la majorité au pouvoir n'accorde aucune légitimité à l'opposition, et que comme l'opposition qui ne se voit pas accorder de légitimité tend à être une opposition un peu bête, il n'y a jamais de discussion collective. Et on se retrouve face à une situation qui est extrêmement compliquée, difficile à gérer. Face à la crise sanitaire, moi j'aimerais pas du tout être au pouvoir, hein. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, et donc c'est vraiment à un moment où on devrait collectivement essayer de prendre des décisions, les meilleures décisions. Et en fait, on préfère se taper dessus à coup de qualification de populisme versus progressisme.
Là, concrètement, sur le coronavirus, sur cette crise que nous traversons, je ne vous demande pas, Julia Cagé, de me dire s'il faut fermer les bars, ouvrir les restaurants. Mais comment on fait pour gouverner, pour trancher, pour décider?
Je pense que dans une situation comme celle que l'on traverse actuellement, on ne peut pas trancher ni décider seul. Le niveau de complexité est bien trop important, et c'est là où il faut essayer de dépasser les oppositions collectives et de décider ensemble grâce à la délibération. Quand on se dit de gauche, parfois, on va avoir tendance à faire quelque chose que je dénonce. D'ailleurs, même quand on se dit de droite, hein, on a tendance à faire la même chose en sens inverse, c'est-à-dire à balayer finalement de la main les opinions inverses comme s'il n'y avait pas de légitimité. Si on ne reconstruit pas le respect de l'autre, et ça vaut à la fois pour l'opposition et pour les gens au gouvernement, on se retrouve avec quoi? Avec des gens qui renoncent à la politique directement et qui finalement choisissent la rue, choisissent la colère, choisissent de ne plus voter. Et ça, c'est pas dû aux passions tristes des individus, mais au dysfonctionnement de notre système politique actuel. Il y a des fois, j'ai le sentiment d'être très vieille en ayant 36 ans. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'avoir connu déjà tellement de déceptions politiques, de voir une situation économique, une augmentation des inégalités politiques, que parfois j'ai l'impression qu'on entre dans un tunnel dont je ne vois absolument pas la sortie. Puis je me dis, finalement, quand même, si à 36 ans déjà, je rentre dans une sorte de renoncement, on ne peut pas faire mieux. Bon, c'est quand même assez problématique, et c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre court, avec un certain nombre de propositions, simplement pour dire, écoutez, je pense qu'on peut essayer de faire mieux que la situation actuelle. Je pense pas du tout avoir la réponse. Ce que je veux, c'est simplement mettre des propositions dans le débat. Et ne pas renoncer, ça veut dire aussi ne pas renoncer au jeu politique. Parce que malheureusement, les réformes, les changements, tout ça, ça passera par le jeu politique et par le jeu électoral. Tout le reste, c'est qu'illusion.
Julia Cagé, je vais vous montrer une photo. Je vais tout simplement vous demander de la décrire et ensuite de me dire ce qu'elle vous inspire.
C'est une photo qui montre le mouvement Extinction Rébellion et une manifestation. Enfin, les personnages sont assez flous, mais on peut imaginer que c'est une manifestation de jeunes. C'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la mobilisation contre le changement climatique et notamment la mobilisation des plus jeunes. C'est intéressant de deux points de vue. C'est intéressant parce que d'une part, je pense que ça devrait nous conduire à l'optimisme. Là où on a souvent dénoncé des jeunes qui passeraient tout leur temps sur les réseaux sociaux à consommer du divertissement, qui seraient apolitiques, qui ne s'engageraient pas, etc. On voit en fait que leur engagement est très fort, très très fort. Je veux dire, le fait de faire une grève scolaire, d'être dans la rue, de faire des blocages, de faire des sittings, ça témoigne d'une envie extrêmement forte de faire changer les choses. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui fait qu'on devrait quand même vraiment s'interroger, c'est que ces jeunes ne passent plus par les partis politiques. Pourquoi ? Parce que les partis politiques n'arrivent plus à représenter les citoyens, et en particulier à représenter les jeunes. Mais le problème avec Extinction Rebellion, d'une certaine manière, enfin le problème, là où je pense qu'il faudrait essayer de rentrer dans une logique un tout petit peu différente, je pense qu'ils ont tort de renoncer complètement à cette idée de représentation. C'est ça qui les empêche fondamentalement de véritablement entrer à leur juste mesure dans le débat politique.
C'était Mathieu Béliard, son invité Julia Cagé. 8 minutes sur ce podcast de 25 minutes que vous pouvez retrouver sur les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle Les Éclaireurs. Nouveau rendez-vous depuis quelques semaines sur l'antenne. Merci beaucoup à toute l'équipe de ce 18-20. Rémi Duprat à la réalisation, Naïma Benchemann, Valérie Danan pour la programmation. Je vous dis à la semaine prochaine avec une chanson dans la tête et Fabien Lecoeuf. Merci Fabien. Pour le 18-20, demain c'est Julien Bugier.